Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, l'émission qui a eu raison de la bonne ambiance qui régnait jadis dans la rédaction. Fini les pauses café sympas, les cantines rieuses. Désormais, quand un journaliste d'Europe 1 a le malheur de demander à un collègue « Comment tu vas ?», il s'entend répondre
« Qu'est-ce que ça peut te foutre ? T'en poses des questions, moi ?»
Oui, désormais en compétition chaque après-midi pour le titre de chroniqueur du jour, nos journalistes ne peuvent plus se blairer et l'air de la rédac est saturé de fiel. Ils vont une fois de plus s'affronter au service de votre culture G et sous l'égide de ma complice et arbitre, une femme exceptionnelle qui, conformément à la mission qui lui a été assignée par la direction, ponctuera l'émission d'expressions modernes et tendances susceptibles de nous rapprocher d'un public jeune, n'est-ce pas Eva ?
À fond les ballons.
Bonjour Eva Roque.
Non mais quand je l'ai dit vendredi, je me
suis dit. Ça date de quand ça, à fond les ballons ?
Oh, 1830. Hein, 1830. Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Tout à l'heure Eva, vous nous direz ce qu'on regarde à la télé ce soir, sachant que la semaine prochaine on aura entre les mains un coffret qui rendra votre métier complètement inutile,
oui,
puisqu'on regardera ce coffret en boucle.
Puisqu'en
effet c'est avec une grande émotion que nous recevons cet après-midi un des plus grands réalisateurs français, de Ridicule au Spécialiste, en passant par Les Bronzés, La Fille sur le Pont, Tango, Tandem, Le Mari de la Coiffeuse, sans compter mon film culte, Les Grands Ducs. Où le regretté Jean-Pierre Marielle, incarnant un comédien raté mais néanmoins exigeant, se barricade dans sa loge et déclare
« Non, jamais je ne capitulerai devant la bêtise. Et en tout cas, pas celui-là !»
C'est une de mes répliques préférées, Patrice Lecomte, du cinéma français, toute comédie confondue. Bonjour Patrice Lecomte.
Eh bien bonjour Mathieu.
Merci d'être avec
nous
aujourd'hui.
Et les autres, pardon.
Et les autres, on s'en fout. On va évoquer évidemment ce coffret collector qui sort à l'occasion des 40 ans des Brosés Fonds du Ski. Mais un mot peut-être d'abord, comme on écoutait un extrait des Grands Ducs, sur cette page de l'histoire qui s'est tournée. D'abord Noiret, puis Rochefort et dernièrement Marielle. C'est fini, c'était des géants de la comédie. Vous auriez envie de leur dire quoi s'ils nous entendent aujourd'hui ? Moi, j'aurais envie de leur dire merci, mais vous qui les avez connus.
Ah bah, je peux leur dire merci, j'aurais souvent dit merci, mais j'aurais envie de leur dire revenez. Ouais. Ce serait bien. Non, mais parce que il ne s'agit pas de tomber dans le fameux c'était mieux avant, qui est un truc de vieux schnock, mais c'est vrai que c'était mieux avant. Et ces gens-là. Ils n'existent plus, eux personnellement, mais ils n'ont pas de descendance d'équivalent. C'était une génération d'acteurs incroyables, quoi. Alors il y a encore Benoît Poulvord, enfin il y a quelques excentriques magnifiques, mais eux ne sont plus là.
D'autres géants de la comédie, c'est évidemment l'équipe du Splendide en 79 quand vous réalisez Les Bronzés Fonds du Ski. Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde que 40 ans plus tard, sur les télésièges dans les stations de ski, des jeunes ados chantent encore Étoile des Neiges ? C'est invraisemblable.
Ah, mais non. Comment je m'inscris en faux.
C'est pas Étoile des Neiges.
Ah, c'est pas Étoile des Neiges.
Qu'est-ce qu'il chante ?
Quand te reverrai-je.
Mais il n'y a pas Étoile des Neiges à un moment donné.
Mais non, alors
justement,
je raconte
pour.
En deux mots.
Ah, mais en deux mots.
Il chantait effectivement au tournage Étoile des Neiges.
Ouais.
Étoile des Neiges. Enfin, vous connaissez. Bon. Bref. Et puis on a appris, une fois qu'on était au montage et tout ça, que Étoile des Neiges, il y avait des droits. Les parents qu'il fallait verser à une vieille bretonne, une bécasse. Je sais plus exactement. Mais enfin, ça coûtait la peau des fesses. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et le compositeur me dit, c'est pas grave, on va détourner, on va pas faire Étoile des Neiges.
D'accord.
Alors, donc, au lieu. Tout le monde pense qu'il chante. Enfin,
se souvient
d'Étoile des Neiges, alors qu'il chante Quand te reverrai-je.
Oui, parce qu'on a l'air en tête, donc on associe, mais effectivement, il n'y a
pays
aucun moment.
Pays merveilleux où ceux qui s'aiment visent le
deux. On va parler de ce coffret anniversaire pour les 40 ans des Bronzés Fonds du Ski. Mais d'abord, je vous présente nos deux premiers compétiteurs du jour. À ma gauche, il est notre Popeye à nous. Il sème la zizanie dans les cœurs de ses collègues. C'est ce qu'on appelle un collectionneur.
Alors, combien ?
3 tonnes
827. Hein. Oh putain. Je me suis niqué 3827 kilos de bronzes.
Oh.
Et toi, t'en as combien ?
125, moi.
Et comment mieux faut-il mettre,
hein ? Attention. Une seule fois.
Bonjour, Agnès Mbida.
Bonjour, Mathieu.
Bonjour, Patrice. Vous êtes notre spécialiste drague, mais aussi innovation. Et cet après-midi, vous nous parlez de ces innovations qui essayent de nous désintoxiquer de l'innovation.
Oui,
qu'est-ce
je vais essayer de vous sensibiliser à un problème qu'on a tous, je crois. Hein, c'est le fait de passer un petit peu trop de temps sur nos téléphones portables. Donc, je vais vous donner quelques petits outils assez malins, justement, pour se désintoxiquer.
À ses côtés, Patrice Lecomte, il a très mal vécu sa défaite vendredi en public.
J'ai mis la Dajo d'Albinoni, j'ai avalé 2 tubes de laxatif et puis hop. J'ai perdu 16 kilos et ma moquette.
Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour.
C'était pas facile vendredi. Hein. Vous pensiez tenir la victoire et au dernier moment.
Ah, j'ai eu le public quand même.
Vous êtes le monsieur littérature d'Europe 1 et aujourd'hui, pour taper dans l'œil de Patrice Lecomte, dont la voix comptera triple tout à l'heure, vous avez décidé de nous parler un peu de cinéma quand même.
Et oui, parce qu'un film sur 5 est en fait une adaptation de roman. Et c'est très compliqué les adaptations de romans, donc je vais essayer de faire le tri.
Merci Nicolas Caro, amateur de littérature, mais également donc cinéphile. On en parle un peu plus tard, car pour l'heure, on va évoquer le film culte de Patrice Lecomte. C'est, je vous le donne en mille, bien sûr.
C'est Les Sous-doués passent le bac.
Nicolas Caro, en point en moins déjà pour vous.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
Patrice Lecomte, en 1978, vous mettez en scène Les Bronzés, puis un an plus tard, Les Bronzés font du ski. On a du mal à le croire aujourd'hui tellement les films sont cultes, mais au moment de leur sortie en salle, c'est pas non plus un raz-de-marée.
Non, c'était, en effet, ce furent de bonnes entrées. Satisfaisante, surtout les entrées de l'époque, parce qu'aujourd'hui, il faut retirer de zéro. C'est comme les nouveaux francs. Les entrées, elles ne sont pas en chute libre, mais enfin, à l'époque, on faisait facilement 1,5 million, ouais. 2 millions. Et on disait, oh, je n'ai fait que 2 millions. Alors qu'aujourd'hui,
oui, si on énorme, fait 2 millions, millions, on est le roi du pétrole.
Il y a une rue à votre nom. Quoi. Et effectivement, les films, Les Bronzés, comme Les Bronzés font du ski, ont été juste des bons succès à la sortie. Mais ils sont devenus, cultes, j'ose pas le dire, mais ils sont devenus...
Patrice Cogon, vous pouvez le dire. Si les bronzés font du ski ne sont pas cultes, il n'y a aucun film qui est culte à ce moment-là, hein, en France, en tout cas.
Donc ils sont devenus cultes à force de passer à la télévision et à force de plaire aux gens et d'être des espèces de films inusables, ce qu'on ne pouvait pas imaginer une seconde quand on les a fait.
Alors pour les 40 ans des Bronzés font du ski... 40 ans déjà, il y a un coffret collector qui va sortir la semaine prochaine.
Il paraît qu'il est magnifique.
Alors, regarde, il est magnifique, je vous le montre. D'habitude, je montre toujours le produit qui est là. Ouais. Mais là, le problème, c'est que je l'ai pris vendredi et que je ne l'ai pas ramené. Parce qu'effectivement, je l'ai ouvert chez moi et je ne l'ai pas entre les mains.
Et il est magnifique. Que je n'en verrai pas.
Vous n'en verrez jamais la couleur. Effectivement, d'accord. Il est chez moi, il sera disponible le 6 novembre. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce coffret? Alors, il y a un Blu-ray, deux DVD et je crois qu'il y a pas mal de bonus.
Alors, il y a trois DVD. À l'intérieur, il y a effectivement le film dont l'image a été complètement remasterisée. Et c'est vraiment magnifique. Enfin, l'image est parfaite. Et puis, il y a le film en Blu-ray, en effet. Et il y a un troisième DVD avec des bonus, des témoignages, des trucs et des machins. Enfin, des bonus très riches. En plus, il y a des petits pins, des badges, qu'on peut mettre un peu partout, que vous auriez pu mettre.
Que j'aurais pu mettre, c'est la moindre des choses. C'est complètement idiot. Et j'aurais dû les avoir.
Je crois. Des accessoires.
Des accessoires. Attendez, ne dites pas accessoires à Eva Rock, elle est capable d'imaginer autre chose.
Mais non, Eva.
Non, le film, oui. Les Bronzés font du ski, si on essaie de l'analyser rationnellement, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut faire, mais pour expliquer un succès pareil, une pérennité comme ça des répliques, est-ce que sur le moment, quand vous le tourniez, vous disiez, oh, ces répliques, elles sonnent quand même tellement bien, ça va devenir quelque chose qui va devenir culte, ou vraiment, il y a aussi un phénomène d'hystérisation collective autour de ce film qui fait que...
Ah non, ça je ne sais pas. Enfin, on se rendait bien compte, évidemment, que ce qu'on appelle les punchlines, ouais. Aujourd'hui, enfin, les vannes, les répliques cultes, qu'elles deviennent cultes, c'était inespéré, mais on savait en tout cas que c'était poilon.
Ouais, on savait que ça allait marcher. Il vient fêter avec nous les 40 ans des Bronzés font du ski. Patrice Lecomte est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, pourquoi certains grands romans donnent-ils des films si nuls? L'art de l'adaptation, c'est le sujet qu'a choisi aujourd'hui Nicolas Caro pour briller aux yeux de notre invité. Nicolas qui se sent un peu seul cet après-midi sans son public du vendredi. Un public toujours en ébullition lorsqu'il fait son entrée dans le studio.
Nicolas Caro, sous vos applaudissements. Oh bah non, mieux que ça. Attendez, mieux que ça.
A tout de suite, Nicolas.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. 2 heures d'une confrontation épique entre les plus valeureux journalistes de la station. Des journalistes qui, hélas, obnubilés par la victoire, en oublient parfois le fair play, j'espère. Néanmoins, qu'Anissé Mbida saura être élégant vis-à-vis de son concurrent Nicolas Caro qui va ouvrir le bal. Anissé, un mot fair play à l'attention de Nicolas.
T'as rien dans le bide, t'es bon, arrête de l'arbre, c'est ta femme, c'est tout ce que t'es bon, pauvre con. Et puis t'es cocu, il t'en demande.
Bien, Nicolas, cet après-midi, vous nous parlez de ces romans qui ont été adaptés au cinéma. Pas toujours avec bonheur.
Ben oui, puisqu'on reçoit Patrice Lecomte et il se trouve que la littérature, c'est un réservoir gigantesque pour le cinéma. Ce sont des scénarios clés en main. Finalement, il suffit de les adapter ensuite pour faire tenir des centaines de pages en 2 heures. C'est facile. Un film sur 5 est une adaptation. Et encore, je ne parle pas des comic books, qui sont aussi des livres. Après tout, les Marvel, etc. Ce sont aussi des adaptations. C'est un peu une sécurité, on peut se dire, l'adaptation.
Ça rassure les producteurs.
On se dit que les spectateurs iront peut-être plus volontiers voir quelque chose qu'ils connaissent déjà ou qu'ils auront envie de voir le film plutôt que de lire le livre, ça va plus vite. À mon avis, d'ailleurs, une bonne adaptation, enfin, transcrire un roman en film, c'est impossible. Ça sert à rien d'essayer de le faire. Et surtout, ça ne sert à rien de voir le film pour se faire une idée du livre. Puisque un livre, on passe beaucoup plus de temps avec. C'est pas du tout la même démarche. On est dans l'esprit des personnages. Ça veut pas dire que le film sera mauvais, mais c'est autre chose. Petit blind test. Donc, ce sont des films adaptés de romans. C'est parti. Facile.
Ah, c'est horrible.
Eva, vous sembliez l'avoir trouvé.
Ouais, mais première note, oui.
Non, aucune idée.
C'est La Firme. La firme de John Grisham, adapté par Sidney Pollack, avec Tom Cruise dans le rôle.
Mais ça, c'est terrible. J'ai pas vu le film, j'ai pas lu le bouquin. Il n'y a pas de danger.
C'est un tort, parce que, en l'occurrence,
oui, je crois
les,
que c'est
deux,
pas mal, ça, hein.
Les deux sont très bons.
Ah, mais j'ai des lacunes.
Donc, c'est Mitch McDear, qui est un jeune avocat ambitieux, embauché par un cabinet prestigieux, mais qui va s'avérer être un piège. Alors, c'est un grand film et un grand roman. Le seul problème, c'est que vous commenciez par le livre ou par le film, vous tuez la fin, puisque Grisham, c'est le maître du twist final. C'est dommage, dans un cas comme dans l'autre, de commencer par l'un. Il faut choisir. Mais bon, de toute façon, je vous le dis, les deux sont très bons. C'est une des exceptions. Deuxième extrait.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein
Dracula.
Et laissez
Dracula
de Coppola avec Keanu Reeves et Gary Oldman. Des films de vampires, il y en a des dizaines. D'ailleurs, il y a une rétrospective en ce moment sur le thème à la Cinémathèque. Mais s'il ne fallait en voir qu'un, c'est celui-là, à mon avis. Il est incroyablement fidèle au roman de Bram Stoker. Et on peut lire et voir le film encore et encore. C'est toujours le même plaisir. Troisième extrait, pas facile non plus.
Je sais pas, au milieu coule une rivière non. ou...
Autant n'emporte le vent.
Non.
C'est plus récent.
L'homme au masque de fer de Randall Wallace.
Oh, ce n'était pas une réussite, ça.
Ah si.
Ah, en si. Fait, quoi, le film, l'homme au masque de fer avec Leonardo DiCaprio.
Absolument. C'est une adaptation du Vicomte de Bragelonne d'Alexandre Dumas. C'est la suite des Trois Mousquetaires. Moi, j'adore Dumas et les Mousquetaires. J'ai vu la plupart des tentatives d'adaptation. Il y en a eu vraiment des dizaines. Et je peux le dire, c'est infaisable. Ça ne tient jamais.
Mais
c'est
oui, mais Caprio en Louis XIV, c'est infaisable aussi. Hein.
Soit too much. La dernière tentative américaine, les Mousquetaires pratiquaient le kung-fu. Je dis non. Mais là, ce qui est malin, c'est que Randall Wallace se focalise sur un épisode très court dans ce roman de 5000 pages. Ça doit faire un chapitre, en fait, l'histoire de l'homme au masque de fer. Et ça tient. Et puis bon, les acteurs, quand même, vous dites DiCaprio,
il y a John Malkovich,
Jeremy Irons, John Malkovich.
Ouais. Gérard Depardieu.
Depardieu en Portos. Ça colle quand même, Depardieu en Portos.
Oui, c'est vrai que pour Portos, on pense forcément à Depardieu. C'était bien, bien casté.
Quatrième film. C'est la musique de Kavinsky.
Ça, c'est une adaptation.
Ah, c'est une adaptation.
Mais comment ça, c'est un film complètement d'ambiance et il n'y a pas d'histoire?
En fait, c'est un roman de l'écrivain James Salis. Un roman très court, foutraque, mal fichu. Effectivement, il n'y a aucune ambiance dans le livre, dans le roman, ni d'histoire. C'est complètement alambiqué. Et pour une fois, le film dépasse lui largement le livre. Peut-être par cette raison, parce que Nicolas Winding Refn, le réalisateur, mise tout sur cette ambiance. Et c'est ça.
Mais est-ce que l'auteur,
reste...
il touche quand même des droits?
Ah, bah bien sûr.
Oh, c'est bon ça. Il a écrit un livre pourri.
James Salis, qui est un grand écrivain de polar par ailleurs, mais celui-ci a raté, à mon avis, Drive. Mais le film est génial.
Patrice Lecomte, vous avez déjà fait une adaptation?
Oui.
Le Magasin des Suicides, notamment.
Le Magasin des Suicides,
effectivement. Le Magasin des Suicides qui était adapté de Jean Tellet. J'avais adapté un roman de Zweig. J'ai adapté un roman de Modiano. J'ai adapté Simenon. Et il y a d'autres projets de ce genre qui se profilent.
Et c'est une complexité différente? C'est un défi différent d'adapter?
J'adore parce qu'il s'agit surtout... Si on est juste... ne lançons pas ce débat parce que j'en ai pour des heures. Ce que je veux dire, c'est que si on a le livre dans la main gauche et la caméra dans la main droite, on est juste illustrateur. Or, ce qui est intéressant, c'est d'adapter, donc d'adopter, de traduire sans trahir, de faire autant un film qui soit l'univers de l'écrivain qu'un film qui soit personnel. De toute façon, si on adapte, c'est parce qu'on entre en écho émotionnel ou sentimental avec un bouquin.
Il paraît que vous allez adapter Maigret.
Oui.
C'est en cours?
Oui.
C'est en tournage ou c'est en...
Ah non, en tournage, je serais pas là.
C'est qui l'acteur?
J'ai laissé ma deuxième équipe tourner pour faire l'émission de Mathieu Noël. C'est très chic.
C'est qui l'acteur?
Ah ben...
Et l'acteur, c'est Portos.
Eh oui,
c'est Gérard Depardieu.
Eh ben, il tourne pas avec n'importe qui. Hein. Merci en tout cas à vous, Nicolas Caro. Nicolas Caro qui, je le précise, a une excellente émission littéraire le week-end où il s'invite dans la bibliothèque des personnalités. Alors si jamais vous habitez pas trop loin de Paris, question budget, c'est important pour nous, faites-lui signe, Patrice. Vendredi, Stéphane Guillon était prêt à l'accueillir, mais comment dire?
Tu peux venir encore si tu veux voir ma bibliothèque, si ça te dit. Vois avec Europe s'ils peuvent te payer le billet.
Ouais, je crois que c'est vite vu.
C'est vite vu, c'est raté pour la Corse, mais en France métropolitaine, c'est possible.
Europe 1.
À suivre, il arrive avec l'assurance hautaine de celui qui a à la fois le cerveau et les muscles. Parfois, Nicolas Caro aimerait bien lui mettre une claque, mais au dernier moment, quelque chose toujours le retient.
Je sais pas si moi, tu vas te casser la gueule, tiens.
La trouille, non?
Ouais, ça doit être ça.
Sur nos smartphones, ces applis qui prétendent nous désintoxiquer du smartphone, justement, nous veulent-elles du bien? On en parle juste après Avamax, So Am I sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, deux heures de détente et de bonne humeur qui n'implique pas pour autant qu'on mette nos cerveaux en veille. Deux heures de découvertes rieuses en compagnie d'un invité rieur, parfois lui aussi, et puis parfois un peu moins rieur lorsqu'il estime que l'accueil n'est pas suffisamment VIP pour lui, comme Stéphane Guillon vendredi.
C'est que le café d'Europe 1 t'en boit un, mais pas deux.
Patrice Lecomte, lui, est si poli qu'il a même redemandé un café. Patrice Lecomte, ensemble, on fête les 40 ans des bronzés fonds du site. Un coffret absolument collector, l'expression est souvent galvaudée, hein. Tout est collector oui. Aujourd'hui, mais enfin là c'est collector, parce que le film a été remasterisé, comme vous nous l'avez expliqué, et en plus il y a plein de bonus dedans. Est-ce que ce film culte a toujours été pour vous une bonne étoile, Patrice Lecomte, ou bien, à certains moments de votre carrière, l'étiquette des bronzés a pu vous peser pour monter d'autres films?
Non, sincèrement, il m'est arrivé assez souvent, quand je me suis mis à faire des films qui n'étaient pas directement des comédies, il m'est arrivé de rencontrer les journalistes qui me disaient « Bon, alors les bronzés, on oublie. » J'ai dit « Mais attends, vous plaisantez, on oublie. » C'était des films extrêmement importants, ça a changé ma vie. Le premier film qui s'appelait « Les WC de Fermé de l'intérieur » et Coluche et Jean Rochefort avait été un bide assez retentissant.
WC étaient fermés de l'intérieur ?
Ouais. Ouais, moi j'adorais ce film.
Oui, mais ça aussi c'est mythique. Rétrospectivement, à l'époque ça n'avait pas marché, c'est ça ?
Non, du tout. Maintenant le film est pareil. Du charme du démodage, on peut dire, et donc il y a prescription, ça va. Mais mon deuxième film, c'était Les Bronzés, puis Les Bronzés font du ski, et c'est vrai que ces films-là ont changé ma vie, quoi.
Alors, justement, c'était le début de votre carrière de réalisateur, Les Bronzés, et c'était pas vous qui deviez réaliser à la base. En tout cas, ça aurait pu ne pas être vous, disons, vous n'étiez pas.
Oui, c'est-à-dire que je m'entendais bien avec les gens du Splendide qui étaient devenus des amis, qui eux avaient eu le bon goût d'aimer mon premier film. On se voyait, on sympathisait, etc. Et quand il a été question, quand Yves Rousséroir, le producteur des Bronzés, leur a dit. On va adapter, ça s'appelait Amour, coquillage et crustacé, la pièce qui est devenue Les Bronzés. Et Yves Rousséroir, le producteur, voulait leur mettre dans les pattes un réalisateur confirmé, quelqu'un qui a de la bouteille, Molinar, Ozidi. Et il y a même eu Jean-Jacques Hano, je crois, sur le coup. Au Splendide, ils ont été extra. Je leur dois beaucoup, beaucoup, parce qu'ils ont dit non, nous, on veut travailler avec un type qui ne va pas prendre possession du film, un type avec qui on s'entend bien, un type de la même génération, un type qui rit des mêmes choses que nous. Et on va faire le film avec Patrice. Et donc, ils ont insisté. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé aux commandes.
Heureusement. Eva Rock.
Est-ce que c'est vrai que pour les dialogues, chacun avait son personnage et développait les propres dialogues de son personnage? Et il y avait des sortes de séances communes entre tous.
Le film a été. Enfin, l'adaptation de Amour, coquillage et crustacé a été un travail collectif. Absolument. Donc, ils étaient six. Moi, j'étais le septième, comme les nains. Ou les merveilles du monde. Si, mieux. Ou les péchés capitaux, parfois. Enfin, bref, sept, il y en a plein. Et les mercenaires. Et c'est vrai. Enfin, 7, il y a plein de 7. Hein. Et on disait quoi avant?
Alors,
effectivement, chacun n'écrivait pas son personnage, mais il le nourrissait, il l'alimentait, mais avec l'accord des autres. C'est-à-dire que s'il y avait une vanne qui ne plaisait pas aux autres, on la virait. Donc c'est très collectif. Quoi.
Alors,
c'est quand même 6 ans d'écriture. Hein.
Ah oui, c'est ça. J'allais vous demander, mais ça a pris combien de temps? Parce que pour que tout le monde s'entende.
Mais ce qui n'a pas pris trop de temps, c'est que les personnages étaient déjà dessinés, ils existaient. Donc il n'y avait plus qu'à organiser tout ça.
Le mot dans Les Bronzés 1, le premier bronzé, le mot clubman n'est jamais cité, mais eux, ils s'inspirent beaucoup évidemment de l'ambiance club du clubman, où la troupe du Splendide se rendait au clubman pour faire je crois qu'ils avaient un deal, ils faisaient quelques spectacles et ils avaient une semaine de vacances gratuite, c'est ça à l'époque?
Oui, c'est ça, ils allaient faire les spectacles club et en échange de billets, logements, une semaine de vacances, ils ont rodé plein de spectacles à eux là-bas.
Et puis comme ça, ils ont pu sentir l'ambiance et nous faire profiter de tout ça ensuite.
Juste petite parenthèse, ce qui est poilant, c'est qu'eux, ils connaissent c'est le club par cœur. C'est comme ça qu'ils ont écrit Amour, coquillage et crustacé. Et quand ils m'ont proposé le film, j'ai dit oui, c'est super, mais je leur ai jamais dit que j'avais jamais foutu les... À l'époque, j'avais jamais mis les pieds au club. Donc quand on parlait de Géo, GM, Question Café, Spectacle Club, je disais ouais, c'est bien. Ouais.
C'est super, ouais.
Mais j'avais peur de me faire virer, en fait. Aussi, si je leur dis que
ils vont à Plaisidy.
Ils vont à Plaisidy.
Avec lui, en fait, les 40 ans déjà des bronzés font du ski. L'homme qui était derrière la caméra, Patrice Lecomte, est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, c'est un petit objet métallique dont on a de plus en plus de mal à se passer, ne serait-ce que quelques heures.
Ah ouais.
Non, pas celui-là, Eva, je veux parler du smartphone. Certains, ils sont tellement vissés à table, dans le métro, dans la rue, 24 heures sur 24, accrochés comme des moules à leur mobile, qu'on a parfois envie de leur crier
« Mais bouffez-le ! Bouffez-le !»
Depuis quelques temps, les applications essayent de nous désintoxiquer des applications. Comment ça fonctionne ? Anis Mbida a enquêté.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue deux heures pour rire et découvrir en compagnie des meilleurs journalistes de la rédaction qui se tirent la bourre pour le titre de chroniqueur du jour. Quand on pense qu'il y a quelques mois encore, ils se disaient amis pour la vie. Désormais, ils ne s'écoutent même plus.
Je sais très bien ce que vous pensez de moi et je peux vous dire que j'en ai absolument rien à foutre.
Un seul l'emportera sous l'œil d'un invité arbitre éminemment prestigieux aujourd'hui puisqu'il s'agit de Patrice Lecomte, le réalisateur des Bronzés, avec qui on fête justement les 40 ans des Bronzés fondus ski. On continue d'en parler, mais la compétition n'attend pas. Voici le Popeye du troisième millénaire. Samedi soir, c'est Eva Rock qui est tombée dans ses filets.
Je te prie de faire très attention, je ne prends pas la pilule.
Et pour c'est vous qui l'aurez fait attention. Enfin, lui, c'est pas endormi au moins. Anissa Mbida, vous nous parlez.
Oh, c'est moche.
Mathieu.
Contrairement à Thierry Lhermitte d'un film. Anissa Mbida, vous nous parlez cet après-midi d'une addiction terrible qui nous concerne quasiment tous, l'addiction au téléphone portable.
Mais moi, je pense que si Les Bronzés étaient écrits aujourd'hui, on aurait certainement un Jean-Claude Duss ou une Gigi qui se passerait leur temps au lieu d'être en vacances, hein, de passer leur temps à défiler sur Tinder ou sur Instagram. Donc, je vais vous parler de toute une série d'initiatives et d'applications qui permettent justement de se désintoxiquer de ce petit appareil. Alors, il y a par exemple, parfois, on est même pas conscient qu'on a une intoxication, qu'on est accro à son téléphone. Et il y a une petite application qui est un compteur de déverrouillage. Ça marche un peu comme un compteur de pas ou un compteur de calories. Donc à chaque fois que vous déverrouillez votre téléphone portable, vous dites 1, 2, 3, 4. Et on se rend compte que parfois, ça arrive à 80 à 100 fois par jour, on déverrouille son téléphone.
Et surtout parfois on le déverrouille pour absolument rien.
Pour absolument rien.
On ne sait pas pourquoi on le déverrouille.
Mais c'est là justement, ça permet de prendre conscience qu'on passe un peu trop de temps à déverrouiller son téléphone. Et donc c'est une application
Ça s'appelle comment ?
Ça s'appelle Unlock Wallpaper, ça veut dire que ça met directement sur votre fond d'écran qui incrémente automatiquement le nombre de fois où on déverrouille son téléphone portable. Il y en a une autre que j'aime beaucoup, moi, c'est une application qui regroupe toutes les notifications et qui vous les envoie à heure fixe. Ça veut dire que plutôt que vous envoyez une notification à chaque fois qu'elle arrive, vous choisissez 4 fois dans la journée, 2 fois dans la journée, 1 fois dans la journée, et vous fixez l'heure, et vous avez toutes vos notifications qui arrivent, tous les SMS, toutes les applications, etc., qui arrivent les unes après les autres. On est moins dérangé, notamment quand on est au téléphone. Il y a plein d'autres applications comme ça, par exemple, une fonction qui n'affiche que des applications dont on a réellement besoin en fonction de l'endroit où on se trouve et en fonction de l'heure de la journée. Donc quand vous êtes chez vous, il va vous montrer certaines applications. Quand vous êtes au bureau, il va vous en montrer d'autres. Et une autre qui est un jeu. Alors c'est typiquement pour les Bronzés, hein, quand on est en soirée, quand on est en train de manger de boire de la liqueur d'ail, eh bien tout le monde lance cette application sur son téléphone et celui qui a perdu, c'est le premier qui justement va déverrouiller son téléphone.
Comment elles s'appellent toutes ces applis ? Parce que vous n'avez pas donné les noms.
Alors justement, c'est Google qui a fait toute une série d'applications qui s'appelle Digital Wellbeing. On va vous mettre à la liste sur, parce qu'elles ont des noms en anglais, Unlock Wallpaper, Postbox, etc. Elles ont des noms un peu compliqués, mais on vous donnera un lien
sur
avec
le
tous les liens pour les applications.
Mais est-ce qu'il n'y a pas de paradoxe quand même à faire la promotion d'applications pour moins utiliser son téléphone ?
Bah, si, carrément. C'est comme si on avait un dealer qui vous donnait du crack en homéopathie pour vous empêcher de vous droguer, pour vous droguer. Moi, non. Mais surtout, pourquoi Google et Apple aussi font ces applications ? C'est parce qu'ils sont surveillés de près par les autorités. Parce qu'on se dit déjà, on a des problèmes de vie privée sur nos téléphones portables. Et on les accuse de jouer de la vie privée et de jouer sur l'addiction au téléphone portable. Donc, ils sont obligés, pour se donner une nouvelle virginité, de créer ces systèmes pour montrer que, regardez, on met quand même en place des systèmes pour éviter aux personnes d'être accro. Mais là où ça va très, très loin aujourd'hui, c'est que certaines, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, on commence à avoir des lois contre l'addiction. Et donc, il va y avoir des dispositifs qui vont devenir obligatoires sur les téléphones portables pour éviter, par exemple, le scroll infini. Vous savez qu'on déroule de façon sur Twitter, sur Instagram, etc., de façon infinie.
Ça va s'arrêter automatiquement.
Ça va s'arrêter automatiquement. Et d'autres fonctions comme ça qui vont être interdites sur les téléphones.
Le problème de votre truc, c'est qu'il faut déjà être conscient qu'on a un problème avec le téléphone portable avant d'installer ces applications. Est-ce qu'on s'auto-diagnostique bien ?
C'est bien le souci. Et c'est pour ça que la loi, c'est un peu comme l'alcool et comme la drogue. La loi, comme on n'y arrive pas soi-même, tout seul, à se désintoxiquer, eh bien la loi va nous aider. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure à la Commission européenne. Et comme ça pend au nez de tous les fabricants de téléphones portables, ils créent des tas d'applications comme ça. Et d'ailleurs, chez Google, ça va devenir obligatoire. Ça veut dire que pour le moment, vous savez comment Google fonctionne, c'est-à-dire qu'ils ont un système de téléphone portable, mais chacun le met un peu à sa sauce sur son téléphone. Et bien là, pour avoir droit au système Google, on sera obligé de mettre ces applications qui prennent en compte l'addiction, qui prennent en compte le bien-être numérique, comme on dit. Et Apple est un des premiers aussi à l'avoir mis de façon un peu obligatoire, avec des fonctions par défaut, typiquement les notifications qui ne viennent plus interrompre à n'importe quel moment. Tout ça, c'est des choses qui vont devenir obligatoires.
Un bon progrès, ça. Patrice Lecomte, vous êtes accro au téléphone portable ou
Non, pas du tout.
Vous avez quand même un smartphone ?
J'ai un smartphone, mais par exemple, je ne suis pas du tout réseaux sociaux ni rien, donc je ne fais pas défiler. Mais je suis affolé par l'addiction que ça représente pour des tas de gens. Mais je trouve que la meilleure application, c'est de partir de chez soi, le laisser chez soi, quoi.
Oui.
Si on le laisse dans le tiroir, c'est super. Et la meilleure application encore, c'est de pas en vendre.
Mais demandez à un alcoolique ou à quelqu'un qui accro au jeu.
Mais arrêtez, pourquoi vous dites ça?
Attention, d'ici vous allez perdre des points si vous commencez à impliquer
difficile.
Des choses.
Il va traiter d'alcool.
J'ai l'impression, c'est ce que j'ai entendu.
Quand on est concerné par le problème, on se dit, mais il n'y a qu'à. Mais quand on est vraiment addict, c'est
surtout
justement
pour
le problème.
Les jeunes qui ont toujours eu ça dans la main, en fait, les ados. Nicolas Caro ?
Non, je me suis fait une réflexion que j'aimerais vous livrer. L'autre jour, j'étais dans le métro et je m'installe dans un carré, donc on est quatre, et je regarde les trois autres autour de moi, ils avaient tous leur téléphone, et moi aussi. Et je me suis dit, quelle société décadente, voilà, tout le monde est sur son portable maintenant. Et en fait, moi, j'étais avec mon portable, mais pour travailler sur une chronique pour vous, Mathieu, sur les, sur les écrivains américains.
Donc
j'étais sur
excuse.
Google Books et je cherchais des écrivains
mais
américains majeurs.
Aussi, en train de
exactement,
les mains.
C'est ce que je me suis dit. Si ça se trouve, le mec en face, il est en train de lire une thèse neuroscientifique, l'autre, il est en train de lire Proust et la recherche du temps perdu.
Il y a plus de probabilités pour qu'ils soient en train de jouer à Candy Crush. Hein. Oui. Je suis désolé de casser votre rêve, Nicolas Carr. Bon, Nicolas, en un mot, comment vous avez trouvé la chronique d'Anissé ?
Je fais cette merde !
Non, j'avais dit fair play, Nicolas, fair play. Patrice Lecomte, ensemble cet après-midi, on fête les 40 ans des Bronzés font du ski. Il y a tellement de scènes d'anthologie dans les Bronzés qu'on a envie d'avoir quelques petits secrets de tournage. Comment s'est passée la séquence chez les paysans dans les Bronzés font du ski, où toute la bande doit goûter la liqueur d'échalote, vous en parliez à Nice, qui semble immonde avec le crapaud à l'intérieur de la bouteille. Est-ce que ça, c'est écrit au cordeau à la virgule près, ou il y a une part d'improvisation dans cette scène?
Non, ce genre de séquence est écrite au cordeau, mais il y a évidemment une part d'improvisation, parce qu'il n'est pas écrit « Gigi boit une gorgée et s'écroule comme une merde ». C'est pas... s'écroule comme une merde.
Mais ça pourrait être écrit.
Oui, alors peut-être c'est écrit, je ne me souviens pas, mais en tout cas, les réactions, quand Michel Blanc dit « C'est quoi les petits trucs blancs, c'est les verts, comme ça, il y a de la viande aussi, je ne peux pas, je suis végétarien », ça c'est écrit. Mais quand, au comble de l'apoplexie, il se tartine le front avec la tartine sur le front parce qu'il n'en peut plus, c'est pas écrit ça. Non. Mais c'est bien quand il y a des choses pas écrites, bien sûr, quand elles sont bonnes.
Et est-ce que dans cette scène, ils boivent vraiment une liqueur très forte pour...
La flotte.
C'était vraiment de la flotte. Ils ne sont pas un petit peu aidés avec un truc qui...
Non, de la flotte qui avait un petit peu goût de plastique parce que le crapaud... C'est un crapaud en plastique.
D'accord. Mais quand vous avez
le crapaud... On l'a pas fait comme il vous indique. On a découpé le fond de la bouteille. On a mis le crapaud, on a mis de l'eau et on a recollé avec la super glue. En revanche, le truc qui tartine, ça se mange à l'étranglée.
La fougne.
La fougne. C'était un peu sucré, quoi, mais c'était très bon.
Ah, c'est sucré.
Oui, c'est sucré.
Dis donc, on en apprend tous les jours. Et vous allez en prendre encore plus dans le coffret collector qui sort la semaine prochaine. Les Bronzés font du ski, fêtent leurs 40 ans. Patrice Lecomte passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, c'est un moment souvent jubilatoire pour nos auditeurs, un peu moins pour Eva Rock qui doit défier notre invité sur un quiz. Allez Eva, aujourd'hui vous avez peut-être une chance, c'est un quiz sur le ski. Vous savez, c'est pas parce que Patrice Lecomte a réalisé il y a 40 ans Les Bronzés font du ski qu'il est forcément balèze en ski. Allez, il y a un peu confiance en vous.
Mais je peux pas ! J'y vais, mais j'ai peur !
Arrête tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures hybrides à la croisée du journalisme le plus exigeant et du divertissement le plus potache, et en compagnie d'un invité qui, en général, adore la séquence qui vient. Puisque vendredi, lorsque j'ai annoncé à Stéphane Guillon qu'il allait avoir l'opportunité unique de se mesurer à Eva Rock lors d'un quiz de Culture G, il m'a dit...
Bah oui, mais je m'en fous.
Bon, vous, Patrice Lecomte, je ne doute pas une seconde que vous en foutiez autant, mais je sais que vous ferez semblant, ne serait-ce que pour ne pas vexer Eva Rock, sa vie a visionné plus de 600 fois Les Bronzés.
Non, mais ne croyez pas, je m'en fous, j'ai bien envie de... Mais je suis très joueur.
C'est vrai ?
Ah oui,
vous
oui.
N'aimez pas perdre ?
Non, l'important c'est de participer.
Mais... C'est beau, Pierre de Coubertin. Avant d'attaquer le coup, justement, Patrice Lecomte, un mot d'argent, c'est ma question ricaine. Là-bas, aux États-Unis, vous savez, ce qu'on gagne n'est pas un tabou, plutôt une fierté. Je ne vous demande évidemment pas un chiffre précis, mais j'aimerais savoir comment vous étiez payé sur Les Bronzés. Est-ce que c'était un forfait avant le succès, enfin, du coup, c'est moins intéressant pour vous, ou alors est-ce que vous avez un intéressement sur le film qui fait que...
Non, on avait un forfait. Et on était tous logés à la même enseigne, le Splendide et moi. Mais ce n'était pas un salaire mirobolant, loin de là. Et il n'y avait pas d'intéressement aux recettes. En revanche, avec les droits d'auteur, SACD et machin, chaque fois que le film passe à la télévision...
Fois,
ah oui, alors là, c'est...
Un banco calme, mais un banco... Enfin, Enfin, je suis venu en la Salle Martine quand même.
Il faut rappeler que c'est quasiment entre 7 et 8 millions de téléspectateurs à chaque fois que le film est diffusé. Des fois, ça vous agace, vous dites non, mais c'est pas possible, vous arrêtez de rediffuser.
Comment ça, c'est agaçant, vous rigolez. Faire plus de spectateurs que des chiffres et des lettres, c'est une joie.
Alors à ce stade, Patrice Lecomte, vous avez le choix. Soit une deuxième question qui peut intéresser le fisc sur votre Aston Martin, soit le quiz contre Eva Rock. Vous choisissez ?
Le quiz, bonne réponse.
Patrice Lecomte, le thème du quiz qui vous oppose à Eva est en rapport direct évidemment avec le coffret DVD qui sort la semaine prochaine sur les bronzés fonds du ski. C'est un quiz sur le ski. Une bonne réponse vaut un point. Patrice Lecomte, il existe un record d'athlétisme de 100 en hauteur, mais avec des chaussures de ski. Vrai ou faux ?
Et ça, c'est pour moi. C'est faux.
C'est faux, bien vu. Par contre, ça aurait pu être tout à fait vrai puisque le record du marathon en chaussures de ski existe.
Ah bon ?
Le marathon en chaussures de ski, 5h30, c'est le record. Hein, le temps normal, c'est 2h01, comme quoi ça va moins vite avec des chaussures de ski. Eva Rock, la fausse neige, c'est de la vraie neige. Par contre, il n'y a pas de flocons. Vrai ou faux ? Réfléchissez bien.
Alors ça... Attendez, pourquoi il n'y aurait pas de flocons Bah non, il y a des flocons. Ouais.
D'accord. Eh bien non, c'est vrai.
Ah bon ?
On résume, la neige artificielle est composée de la même matière que la neige naturelle, mais il n'y a pas de flocons pour la neige artificielle, à savoir les jolies petites formes de cristaux de glace qui se forment.
Bah oui, pourquoi ?
Vous savez, il n'y en a pas. On ne peut pas le reproduire, parce que chaque flocon est unique dans la nature.
Vous êtes sûr de ça ?
Écoutez...
D'accord, je ne me sens pas serein sur cette réponse.
Je suis confiant. D'accord. Sébastien Bordenave qui prépare ce petit quiz pour moi. Eva Rock, Patrice Lecomte, on rejoue ensemble tous les deux. À Pitea, au nord-ouest de la Suède, il fait souvent moins 60 degrés. Le soleil ne brille que 4 heures par jour, mais les pistes de ski ont quelque chose de particulier. Quoi donc ? 3 propositions. 1. Il y a des pistes naturistes et des chalets échangistes. 2. Il y a une piste, visiblement à Nice, va en vacances là-bas. 2. Il y a une piste que l'on peut descendre avec un casque virtuel pour avoir l'impression de skier sur de la lave. Ou 3. Il y a un McDo. À Pitea, au nord-ouest de la Suède.
Moi, je pense, parce que je trouve qu'ils sont capables de ça, je pense que c'est la première réponse.
Des pistes naturistes ?
Ouais.
Alice fait oui de la tête.
Et moi, j'aime bien l'histoire du casque virtuel, là.
Il aime bien le casque virtuel, Oui. Ouais. Bah vous avez faux. Et Anissé et Patrice pourraient partir peut-être pour une petite piste noire naturiste, si ça existait, car c'est faux. Il y a simplement un McDo, le Maxki, le seul Maxki qui existe. Il peut recevoir 140 personnes à l'intérieur et vous pouvez également emporter une sorte de McDrive, mais en scooter des neiges.
On peut pas dire que la première réponse était quand même plus sympa et qu'on
l'apprend. Oui, mais il faudrait qu'il le crée.
Moins 60 nus.
Ouais.
Oui, moins 60 nus, bah, il faut du courage. Mais
du courage.
Arrêtez, je vais visualiser. Patrice Lecomte, en France, une boisson sans alcool est taxée à 5,5%. L'alcool a une TVA à 20%. Mais dans les départements ayant une frontière avec un pays étranger où on peut skier, le vin chaud est taxé à 25%. Vrai ou faux ?
Le vin chaud ?
Le vin chaud.
Mais alors, à combien il taxe planter du bâton ?
Faites le planter, bâton.
Le vin chaud à 25%, non, c'est faux.
C'est faux, mais il y a tout. Il déjoue tous les pièges. Par contre, il existe une taxe ridicule, une taxe ski de fond prélevée par les collectivités territoriales. Elle rapporte environ 11 millions par an. Elle finance notamment l'entretien des pistes. Ça, vous ne le saviez pas, Eva.
Non.
Eva Rock, attention, c'est la question qui vous permet peut-être de recoller
ou pas.
Non,
j'ai déjà perdu.
Non, vous avez déjà perdu.
Oui.
Quand Patrice Lecomte a réalisé les bronzés fonds du ski, il a coupé au montage plus de 30 minutes, mais il ne les a jamais gardées. Du coup, ces scènes sont définitivement perdues. Vrai ou faux ?
Ah, je dirais que c'est vrai.
Ben oui, c'est vrai.
C'est vrai, Eva.
C'est vrai.
Le premier montage faisait 2h10. Hein. Comment c'est possible, Patrice, d'avoir jeté les rushs ?
Mais non, on ne les a pas jetés. C'est-à-dire qu'on a monté le film, on a coupé pas mal parce qu'on avait trop écrit, parce qu'on se disait on verra bien plus tard. Et en fait, les rushs, les doubles, les premiers montages, les scènes coupées sont gardées. Pendant un certain temps, c'était support film à l'époque, sont gardés pendant un certain temps au laboratoire. Et au bout d'un temps X, le laboratoire prévient la production en disant on va mettre ça au pilon, est-ce que vous voulez garder ça ? Mais enfin, c'est très volumineux.
Mais c'était combien de temps après ?
20 ans après, 15 ans, 10 ans après.
Et 10 ans après, vous n'êtes pas dit on va utiliser ces...
Non, le producteur a laissé mettre ça au pilon, mais à ce moment-là, on n'avait pas encore la notion des bonus et tout ça, des director's cut et compagnie. Donc, il y avait des bonnes scènes.
Vous n'aviez pas la notion des bonus, mais là, en regardant les bonus justement du coffret, il y a quand même pas mal de trucs que vous avez pensé à l'époque même de la sortie du film. Il y avait plein de teasers en fait, où chaque membre du Splendid venait face à la caméra faire un petit speech. C'était très moderne ça à l'époque.
C'était le film annonce était constitué de ça. La bande annonce du film, on avait fait ça pour les bronzés numéro 1. Les bronzés aisés, et chaque personnage face caméra dit pourquoi il est là à la neige, comme il disait pourquoi il était au club.
Les Bronzés 3, il y a eu Les Bronzés 3 il y a quelques années, qui a fait en fait finalement beaucoup plus d'entrées que Les Bronzés en salle. Ça a été un carton total. Ouais. Le film n'a pas eu des très bonnes critiques en revanche. Ça, c'est quelque chose qui vous a blessé, qui vous a... Vous avez fait le film que vous vouliez, vous étiez un peu déçu vous-même?
Non, on est conscient de, des... Je suis tout à fait conscient des limites du film, de ce que... Mais bon...
Il y avait une telle attente, quoi. C'était...
Oui, mais... Le film, enfin, je vais me la péter deux secondes, après je promets j'arrête, mais le film a fait près de 11 millions d'entrées. Ouais. Et 11 millions d'entrées, c'est quand même plus valorisant que des... Enfin, que des critiques pas bonnes ou des gens déçus. Mais si le film avait vraiment été naze, ça serait su très vite.
Oui, le bouche à oreille n'aurait pas fonctionné du tout. Ça serait possible, les Bronzés 4, c'est quelque chose qui est en projet
Quand on a fait le 1, on a dit jamais le 2.
Donc peut-être le 4
un jour. Le 2, jamais le 3. Donc comment dire, jamais le 4.
Tous entre amis, on se réunit chaque année pour regarder les Bronzés font du ski dans chaque foyer de France, peut-être, j'imagine. Est-ce que l'équipe du Splendid, aujourd'hui, ils ont tous eu des carrières tellement incroyables, chacun de leur côté, est-ce qu'ils sont toujours potes aujourd'hui? Est-ce qu'eux, ils se retrouvent pour voir les Bronzés ensemble?
Ah non, ça, je crois pas qu'ils fassent des soirées karaoké Bronzés ensemble sur le même canapé, mais le titre du numéro 3, c'était Amis pour la vie, ouais. Et c'est vrai, c'est pas frelaté du tout.
Patrice Lecomte, en tout cas, a remporté le quiz face à Eva Rock. Les Bronzés font du ski ont 40 ans. Patrice Lecomte est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, jusqu'où seriez-vous prêt à aller au nom de votre conscience écologique en Belgique? Un restaurant vous propose désormais de l'eau minérale, de l'eau du robinet ou, troisième option, de l'eau des cabinets.
Ça débouche la chiotte.
Justement, c'est censé être buvable. Notre correspondant dans le Nord a testé pour vous. Il nous raconte s'il est en état. Juste après Jimmy Somerville, You Make Me Feel sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures pour soigner vos zygomatiques sans pour autant snober votre précieuse cervelle qui aime à engranger de nouvelles connaissances. Et justement, je vous pose une question, chers auditeurs. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller au nom de vos idéaux écologiques? Un restaurant belge propose désormais à ses clients écolos une expérience inédite, normalement sans danger, mais psychologiquement dérangeante, boire de l'eau, non pas du robinet, mais des cabinets.
À la vôtre, hein. Santé.
Merci, hein. Puis bonne chance surtout.
Bonne chance à tous. Bonjour Lionel Gougelot.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva.
Bonjour. Alors, Lionel.
Rassurez-nous, il s'agit bien d'eau traitée quand
oui,
même.
Oui, je vous rassure. Alors, on parle effectivement de l'eau des toilettes quand même, hein, mais aussi des eaux usées, des cuisines, comme l'eau de la plonge, vous savez. Eh bien dans ce restaurant, il n'y a pas de tout à l'égout. Et c'est pour ça que les patrons ont eu l'idée de recycler leurs eaux usées. Alors, le filtrage, je vous explique, il se fait en deux étapes. D'abord, une partie de l'eau est récupérée et simplement filtrée, et ensuite mélangée à de l'eau de pluie, elle aussi récupérée pour alimenter tout simplement les chasses d'eau des toilettes. Jusqu'ici, vous avez tout compris. Mais une autre partie de cette eau est dirigée, elle, vers une installation. Alors, c'est un truc ultra perfectionné, je ne vais pas vous le décrire scientifiquement. Sachez simplement que cette installation nettoie l'eau presque molécule par molécule.
Et donc, à ce moment-là, l'eau redevient potable?
Non.
Ah,
non,
mince, non, parce que si je l'avais bu à ce moment-là,
figurez-vous qu'elle est tellement clean qu'elle est impropre à la consommation. Et à ce moment-là, le système qui a été mis en point par l'entreprise Bozac, donc l'entreprise en Belgique, consiste à reminéraliser l'eau pour la rendre effectivement potable.
Et là, elle se retrouve à table.
Ouais, en carafe, sur demande des clients évidemment, mais aussi pour faire le café ou les glaçons. La télévision flamande a interrogé quelques clients et ils sont catégoriques, il n'y a aucune odeur dans le verre.
Elle n'a pas d'odeur et son goût est le même que celui des autres eaux. Je suis super content que ce soit possible de faire ça à partir des eaux usagées.
Et c'est la première fois qu'on utilise ce procédé?
Alors, en Europe, pour la consommation courante, oui, notamment la consommation en carafe, hein, à la table du restaurant, mais il existe déjà depuis longtemps, on le sait, hein, des procédés de filtrage des eaux des toilettes qui permettent de réutiliser l'eau pour les arrosages d'espaces verts, des systèmes d'ailleurs qui pourraient bien se généraliser compte tenu évidemment des situations de sécheresse que l'on connaît de plus en plus. Il faut savoir que le restaurant de Courtrai s'est fait une sacrée
bah oui,
sur cette affaire d'eau des toilettes recyclées. Et il a même poussé le vice jusqu'à indiquer que cette eau recyclée servait, tenez-vous bien, à la fabrication de la bière. En Belgique, ça s'impose.
Ah ben ça, évidemment, la bière, c'est la boisson nationale. Il nous faut également faire un point, Lionel, un rectificatif à propos d'une histoire, oui, que vous nous racontiez la semaine dernière, celle de l'enfant au vélo photographié dans les années 60 dans une cité minière du Nord.
Oui, alors vous savez, c'est cette fameuse photo qui avait mobilisé la twittosphère pour identifier le lieu, hein, de cette cité. et ce petit garçon, Jean-Michel. D'anciens voisins affirmaient mordicus que le malheureux était décédé. Eh bien, en fait, il confondait avec l'un de ses frères, l'enfant au vélo.
Bonne nouvelle,
alors. Oui, bien sûr, l'enfant au vélo vit toujours près de Lens. Il est en super forme. J'ai contacté sa famille et il a été vraiment très, très touché par cette vague d'émotion, finalement, qu'a suscité cette photo.
On l'a tous été, surtout Eva.
Mais oui, moi, ça, mais je suis contente qu'il soit en vie, ce monsieur.
Je suis contente qu'il soit en vie. Bon, oui. C'est ça le message qu'Europe 1 avait envie de faire passer aujourd'hui. Merci, Lionel Gougelot.
Merci.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue avec Patrice Lecomte, le réalisateur des Bronzés fonds du ski, à l'occasion de la sortie prochaine d'un coffret collector. À suivre, deux nouveaux concurrents s'apprêtent à nous rejoindre. Non mais attendez, j'ai dit s'apprêtent, c'est pas encore à vous. Qu'est-ce que vous faites là? Ne poussez pas Nissem Bida.
Vous êtes en tort, monsieur. Vous avez dépassé 12 heures, j'aurais très bien pu arriver ici à 0h10.
On aurait pu être là à 0h01 si on avait voulu.
Ouais, ils ont l'air sympas, ceux-là aussi. Avec, on parlera notamment des têtes couronnées qui n'en font justement qu'à leur tête, et de Netflix dont vous allez justement apprendre à vous servir comme un pro, c'est-à-dire en déjouant l'algorithme. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1 et vous êtes au cœur de l'équipe est sauvage. Chaque après-midi, les journalistes d'Europe 1 défilent au micro pour tenter d'être élus chroniqueurs du jour. Dans les couloirs, ils s'épient et se jaugent.
Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas en retraite?
Pas du tout. Et toi? T'as pas encore raccroché?
Tu plaisantes? Je suis en plein boom. J'explose.
Une émission intégralement bruitée avec des extraits de films de notre invité Patrice Lecomte, avec qui on fête les 40 ans des Bronzés fonds du ski. Patrice, je me demandais, dans votre filmographie, est-ce qu'il y a un film moins connu que les autres, ou qui a eu moins de succès en tout cas, qui vous plaît au moins autant que les Bronzés?
Ah, qui me plaît autant, oui, que les Bronzés, qui me plaît autant que les Bronzés, ça je ne pourrais pas dire, mais enfin, dont je suis aussi fier, Pierre, que les Bronzés, ouais. Oui, bien sûr. Oui, il y en a un.
Et vous pouvez les citer?
Bah, Cirque les Grands Ducs, dont oui, on parlait tout à l'heure, c'est un film que j'ai adoré et que j'adore, et qui a eu un succès mitigé.
Mais un grand succès d'estime à posteriori.
Mais le fan club des Grands Ducs, oui, était, ah oui, très, très fidèle et très, très fervent.
Ça, c'est sûr. Patrice Lecomte reste avec nous. Deux nouveaux journalistes en compétition arrivent. On vous donnera notamment 5 tuyaux pour utiliser Netflix comme un pro.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage spéciale Bronzé fonds du ski continue pour les 40 ans du film culte de notre invité Patrice Lecomte. Patrice, entre nous, vous pouvez plus l'entendre cette musique.
Ah non, mais j'ai jamais pu l'entendre.
J'ai jamais pu l'entendre, c'est pour ça. Mais c'est vous qui avez choisi la musique du film quand même.
Oui, mais ça m'a échappé.
Ah, ça m'a échappé. Vous avez échappé. Au moment où vous avez écouté des petites musiques comme ça, vous avez dit ça si jamais.
Oui, c'est Pierre Bachelet, paix à son âme, qui. Je préférais quand il chantait les corons, moi.
Deux heures d'une compétition, les amis, entre les meilleurs journalistes de la station. Compétition encore plus disputée que le critérium des médecins dans le film, avec des tensions parfois terribles en cas de contre-performance. Vendredi, quand Eva a eu le malheur de dire à Emmanuel Dutheil qu'il avait un peu accroché au détour d'un mot, ce dernier a mal réagi.
J'ai pas accroché, j'ai ripé. Parle pas de ce que tu connais pas. Mais quelle icône, celle-là.
Patrice Lecomte, je vous présente notre troisième concurrent du jour, chef du service éco d'Europe 1. Il déteste perdre, ce qui est regrettable, car statistiquement, il s'est lui
pourtant, grâce à vous, je commence à m'y habituer.
Bonjour Emmanuel Dutheil.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Une fois par semaine, vous vous faites plaisir, vous délaissez les courbes soporifiques du Nasdaq pour nous parler de votre vraie passion, les têtes couronnées.
Bah, c'est surtout quand je m'enfonce trop dans le classement, je gagne plus de points avec les têtes couronnées, donc j'essaye de ressortir ces cartes.
Alors qu'est-ce qui se passe chez les têtes couronnées?
Eh bien, alors, on va s'intéresser à Meghan et Harry, ce qu'on appelle la famille de Sussex en Grande-Bretagne. Ils étaient adorés, adulés, bah oui. Leur mariage avait été suivi par des milliards de téléspectateurs. Ils sont détestés maintenant. Pourquoi donc? Bah vous restez avec nous, je vous dis ça tout à l'heure.
Oh, il fait teasers suspense maintenant. Incroyable Dutheil. À ses côtés, Patrice Lecomte, sosie autoproclamé de Jean Dujardin. Il règne en maître sur le service culture d'Europe 1, dont il n'est rien moins que le vice-chef adjoint délégué. Position prestigieuse qui aurait pu lui monter à la tête, non. Interrogé sur le tournage du futur clip promotionnel d'Europe 1, il a su rester humble.
Écoutez, ça me gêne de répondre à cette question. J'aurais surtout pas donné l'impression de tirer la couverture. C'est évident, j'ai le premier rôle, quoi. Je supporte entièrement le film sur mes épaules.
Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
Là, on entendait Christian Clavier, ouais, dans des bonus du film où chaque, c'était très très drôle cette combat. C'est vous qui avez eu l'idée de cette petite, de ces petites teasers?
Non, c'est une idée collective. C'était un film très très collectif et c'est pour ça que c'est bien.
Chaque personnage vient face caméra expliquer que c'est lui en fait la star du film. Il a le premier rôle et que bon, il y a les autres du Splendide mais qui ont un rôle subalterne. Mathieu Charrier, je vous dis bonjour. Est-ce que je vous ai dit bonjour?
Mais oui, on peut se le redire si vous voulez.
Même si vous m'avez annoncé hors antenne que votre fille avait eu une gastro la semaine dernière et que donc j'ai fait venir du gel antibactérien quand même pour être sûr. Voilà, et je le donne à Patrice Lecomte qui vous a serré la main.
Il faut préciser que c'est vrai. Hein.
Mais c'est oui, ça
vous avez
précise,
en régie, on vous a amené du gel hydroalcoolique.
Oui, mais
ça
c'est
donne
le minimum.
Idée de...
Je n'ai aucune envie d'être malade et visiblement Patrice Lecomte qui est en train de se laver les mains non plus. Aujourd'hui, pour une fois,
une douche avec ça.
Pendant que Patrice Lecomte prend sa douche, Mathieu, de quoi vous nous parlez aujourd'hui?
Bah de Netflix, vous m'avez demandé. Vous m'avez dit, je comprends rien Netflix, aux fonctionnalités cachées, l'algorithme, tout ça. Oui. J'ai enquêté, je vous dis tout, comment déjouer la pieuvre Netflix.
Ça, c'est fort. Merci, Mathieu Charrier. Meghan et Harry, la fin de la love story avec l'opinion publique britannique ou le mode d'emploi malin de Netflix? Quel sujet vous séduira le plus? Réponse peu avant 18h. En attendant, on continue de fêter les 40 ans des Bronzés font du ski, un film réalisé en 79 par Patrice Lecomte, notre invité. Vous connaissez forcément.
Patrice Lecomte. Les Bronzés? Ah ouais, il y a longtemps. Ah, ça fait longtemps, hein. Ouais, elle a changé, évidemment.
Joueur de tennis, Patrice Lecomte.
Metteur en scène. Bah, il a fait la coiffeuse et je ne sais trop quoi, tous ces trucs-là. C'est un très bon, c'est un très bon. Vous êtes content, là?
Bah, c'est un cinéaste un peu intello, mais comique. Comique intello, voilà.
Les bronzés font du ski. Le père Noël est une ordure. Qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu? Je reste sur ça.
Oui, il y avait Thierry Lhermitte et tout, mais il y avait Philippe Jugnot. Il n'y avait pas Balasco, Madame Josiane Balasco. Ah, une autre dame blonde aussi qui est dans le lot, que j'aime beaucoup aussi.
Patrice Lecomte est un humaniste.
Marianne Chazelle.
Comme dirait Jean-Claude Gus. On peut pas tromper 1000 personnes 1000 fois. Sur un malentendu, ça peut marcher.
Comme quoi, tous les films cultes se mélangent dans la tête des gens. Hein. Comique, intello, humaniste. Ce sont des termes qui font plaisir quand même, Patrice Lecomte, pour ceux
c'est mieux qu'un coup au cul, ça c'est sûr. C'est évident.
Quand on regarde votre filmographie, Patrice Lecomte, de La fille sur le pont au Bronzé font du ski en passant par Ridicule, il y a un mot qui me vient tout de suite à l'esprit, un mot qu'on chérit beaucoup dans cette émission, c'est éclectisme. C'est une ligne, l'éclectisme, que vous êtes fixé quand vous avez démarré le métier de réalisateur. Vous vouliez faire des films très différents, dans un univers différent.
Non, au début, moi, ce qui me plaisait, c'était de faire des comédies, de faire marrer les gens. Et puis, on n'est pas monochrome. Et donc, il y a eu d'autres envies qui me trottaient en tête. Et j'ai réussi, ce qui n'est pas si simple en France, parce qu'on a vite fait de vous coller des étiquettes sur le front. Et j'ai pris des libertés de plus en plus grandes.
On dit souvent, il me semble que dans votre carrière, il y a eu un tournant au moment du film Tandem avec Jean Rochefort et Gérard Jugnot. Mais pour vous, je crois que c'est un autre film qui a marqué ce tournant, c'est Les Spécialistes avec Bernard Giraudot et Gérard Lanvin.
Oui, absolument, parce que avant Les Spécialistes, je n'avais fait que des comédies. Mmh. Et c'est un jour, Christian Fechner, qui était un producteur que j'adorais, avec qui j'ai fait plusieurs films, et qui me dit... Patrice, vous voulez faire des comédies toute votre vie? J'ai dit, je sais pas, oui, non, pourquoi? Et c'est là qu'il m'a dit, alors j'ai un projet, Lanvin, Giraudot, Côte d'Azur, Le Casse du siècle, je vais faire ça avec vous. J'ai dit, c'est super. Et c'est comme ça que j'ai fait autre chose que des comédies. Et le vrai tournant, après quand j'ai fait Tandem, c'était Bienvenue dans la cour des grands, etc. Mais bon, les journalistes ont des formules formidables.
Il faut bien qu'on bouffe, hein. On invente des petites formules.
Mais le vrai changement, ce qui m'a donné, enfin non pas des aides, mais qui m'a donné envie d'être plus libre, encore plus libre, c'est Les Spécialistes.
Et est-ce que vous avez eu des facilités ou en tout cas des possibilités de financement de tous vos films avec aussi... que ce soit en comédie ou dans des films sérieux, c'était toujours pareil? Vous aviez ces financements-là ou ça a été plus compliqué?
Non, c'était pas compliqué. Mais enfin, après Les Spécialistes, qui a été un très grand succès, faire Tandem, qui était un petit film plus personnel, ça a été très compliqué. Non, mais les films se font pas, il suffit pas de claquer dans ses doigts et tous les producteurs sortent leur chéquier, c'est pas vrai. Et encore moins aujourd'hui.
Un coffret spécial sort dans quelques jours, la semaine prochaine, le 6 novembre, pour fêter les 40 ans des Bronzés font du ski. Patrice Lecomte est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Eva Roch, Mathieu Charrier, Emmanuel Dutheil sont à mes côtés. À suivre, Emmanuel Dutheil, le fils qu'aurait pu avoir par GPA Stéphane Bern et Léon Zitrone, va entrer en piste avec un sujet tête couronnée qui nous entraînera outre-Manche, où rien ne va plus entre Meghan, Harry et l'opinion publique anglaise. Dutheil réussira-t-il à déjouer les pièges et les fourberies que l'odieux Charrier ne manquera pas de semer sur sa route, comme la dernière fois?
Alors, ça s'appelle, je le monte correctement, je sais pas trop bien où est la caméra, mais a priori c'est là.
Surtout à la radio.
A tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue 2 heures en compagnie d'un des plus grands réalisateurs français, Patrice Lecomte, avec qui on fête les 40 ans des Bronzés font du ski. Et justement, Patrice, ici aussi, entre les journalistes de la rédaction, chaque après-midi, la compétition fait rage. Un seul sera élu chroniqueur du jour. Alors d'habitude, avant chaque chronique, je ressors aux journalistes un extrait sonore déstabilisant où il passe souvent pour un con. Aujourd'hui, innovation Europe 1, Emmanuel Dutheil étant chef du service économie et donc techniquement au-dessus de moi hiérarchiquement, il a exigé que je diffuse non pas un extrait ridicule de lui, mais un extrait ridicule de moi. Ah, sacré Dutheil, mais enfin, mon cher Emmanuel, s'il m'arrivait d'être ridicule hors antenne, par exemple, si je me parlais à moi-même dans un sabir incompréhensible comme un schizophrène sous ecstasy, ben ça se saurait. Et nos invités comme Stéphane Guillon vendredi l'auraient remarqué. Or non, non, non.
Là, t'avais une question de musique, c'est ça?
Oui, bah effectivement, oui, mais enfin, d'accord. Bah, c'est, je sais, mais c'est parce que l'autre est plus péchu que je l'ai mise. Je sais bien que ça n'est pas. Je sais bien que ça n'a aucun sens, mais est-ce que ça a déjà eu du sens les musiques sud-américaines?
Il parle souvent tout seul comme ça.
Bon, voilà Dutheil. Vous avez ce que vous vouliez. Maintenant, on vous écoute.
Alors moi, j'ai même plus le relancement. Vu que je suis dans les bas-fonds du classement, parle de ce que tu veux, amuse la...
Vous nous parlez de la désaffection de l'opinion publique anglaise envers Meghan Markle et Harry.
Voilà, effectivement. Et donc, rien ne va plus chez les Sussex, c'est comme ça qu'on appelle le couple. Pourtant, tout avait si bien commencé, vous vous en souvenez, hein, comme un conte de fées, un mariage magnifique, des milliards de téléspectateurs, une robe mais extraordinaire, une émotion folle, une proximité extraordinaire avec son frère William, qui était son témoin de mariage, une popularité sans faille. Bon, il y avait quand même le père de Meghan Markle qui avait créé un peu la polémique, puis il y avait une demi-sœur un peu trop bavarde et tout. Mais bon, ça, on avait mis ça de côté. La famille royale britannique avait su très bien gérer. Puis ça faisait presque partie du mythe. C'était formidable. Le couple était tout réjouissant. Puis alors, après, extraordinaire. Le bébé qui arrive tout de suite, ça fonctionne quasiment du premier coup. Mais voilà, la machine. Bah, qu'est-ce que vous voulez que ça arrive vite derrière,
mais je voyais la conception du bébé aussi qui fonctionne du premier coup. Du coup, bon.
Mais voilà.
Alors, pourquoi ce revirement, alors, Emmanuel, si tout était.
Eh bien,
si bien,
déjà, parce qu'ils ont commis plein d'erreurs et plein d'erreurs de débutants. Alors sûrement qu'ils avaient été un petit peu grisés par ce succès en se disant « Bon allez, William et Kate, ils sont démodés, c'est nous maintenant le couple de la famille, c'est nous les modernes. » Bon, je vais quand même vous donner quelques exemples sur les erreurs. Déjà, quand le petit est arrivé, ils l'ont appelé Archie. Alors on peut trouver ça beau ou pas beau, mais alors personne n'avait prévu ça. Et dans la famille royale britannique, c'est un petit peu quand même codifié que la façon dont on appelle son enfant. Donc ça déjà, ça s'était pas très bien passé. Et puis surtout, je sais pas si vous vous souvenez, mais la présentation de l'enfant. D'habitude, quand on est comme ça parmi les tout premiers rangs de la famille royale britannique, on sort de la maternité, généralement 8 heures quasiment après l'accouchement, on est toute pimpante et à côté le papa est tout beau. Là, non, Madame Meghan voulait le faire tranquille, chez elle, elle voulait pas être vue. Bah, peut-être que, comme Mathieu a l'air de se dire, elle a bien raison. Sauf que donc, on a eu quoi en photo? On a eu Harry qui est arrivé avec Archie dans les bras. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, les Britanniques? Ils ont dit, bah, vous êtes bien gentils, mais là, la maison de laquelle tu sors, là, ton petit manoir à côté de Windsor, c'est nous qui venons d'en payer totalement la rénovation, parce qu'en plus, monsieur ne veut pas vivre à côté de son frère du côté de Londres, donc à Kensington Palace. Donc, ils sont à côté de Windsor, ça a coûté des millions de livres de rénover tout ça. Et en plus, les Britanniques n'ont pas le droit de voir correctement la princesse et pas le droit de voir correctement. Ah, ça, c'était vraiment la première bourde. On a eu aussi ces derniers mois plusieurs bévues sur la communication. C'est-à-dire qu'Harry a beaucoup critiqué notamment les tabloïds et a fait référence en plus beaucoup à sa mère en disant, là aussi je caricature un peu, mais en disant, vous voyez ce que vous avez fait à ma mère, si vous continuez comme ça avec Meghan, vous allez avoir la même chose. Donc on parle bien évidemment d'un traumatisme. Il a critiqué, dénoncé publiquement le rôle des médias jusqu'à ce fameux documentaire qui est passé la semaine dernière à la télévision britannique.
Et en quoi il pose un problème, ce documentaire? Qu'est-ce qu'il y avait comme révélation?
Il rassemble toutes les erreurs à ne pas commettre. Déjà, semble-t-il, ils n'avaient pas véritablement prévu, les services de la couronne, de dire on a fait un documentaire un petit peu larmoyant à la fin de notre tournée en Afrique du Sud. Donc déjà, vous imaginez un peu le cinéma quand la reine a pu découvrir cela. Et puis surtout, là, Meghan nous dit « Oh là là, ma vie est atroce, qu'est-ce que c'est dur, je suis épié. » Elle dit quand même à un moment « Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. » Elle est starlette de la télé américaine. Elle doute bien que si elle avait raté une marche pour monter aux Oscars, elle aurait fait la une de n'importe quel média. Bon, bah là, elle ne rate pas de marche, mais elle n'est juste pas douée dans sa communication. Donc, bien évidemment, elle se fait attraper. On a eu aussi...
Je sens que vous ne l'aimez pas, Emmanuel.
Non, j'ai aucune critique envers elle. Mais on a aussi eu Harry qui nous dit « Ah bah oui, avec mon frère, il y a des hauts et des bas, là on est plutôt dans un bas. » Mais non, mais ils ne sont pas payés pour ça, la famille royale britannique. Ils sont payés pour quoi? Ils sont payés pour aller déposer des fleurs devant n'importe quelle circonstance, ils sont priés de sourire et ils sont priés d'incarner le pays. Et en plus, à un moment où le pays est déjà secoué par le Brexit et déjà en opposition, on n'a peut-être pas besoin d'avoir Harry et William qui se font la gueule. C'est quand même pas tout à fait, pas tout à fait utile entre les deux. Donc ça ne se fait pas, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le faire. Mais, et en plus, ils ont rajouté à ça... On est fatigué, on est épuisé par tout ce qui est en train de nous arriver. On prend 6 semaines de pause au moment de Thanksgiving pour aller un peu se reposer, notamment aux États-Unis, hors des médias, ce qui veulent également s'occuper de leur enfant. Enfin bon, quand vous êtes dans une société anglo-saxonne où vous n'avez pas 6 semaines de vacances à la suite, ils sont bien gentils là aussi de prendre un petit peu sur eux. Donc la reine, là aussi, n'a pas été.
Cet édito, c'est vrai, je ne vous avais jamais
connu. C'est plus du tout une chronique, c'est un édito.
Si enflammé, quoi. Vous savez qu'on va avoir des problèmes.
On va peut-être avoir des problèmes, mais on va attendre les fêtes de Noël. Pourquoi? Parce que c'est un moment extrêmement important de réunion familiale, toujours autour de la reine. Donc là, si par exemple, ils vont à la messe de Noël, enfin tous ensemble...
Ils seront pardonnés ?
Ben non, mais déjà, ça voudra dire qu'au minimum, médiatiquement parlant, on a essayé de rabibocher le tout, et puis ben, peut-être qu'à nouveau, les frères, les belles-sœurs et tout le bazar, ce seront mieux entendus.
Tout le bazar. Et Varrock ?
Mais 6 semaines de vacances pour se reposer...
Non, de repos.
Mais de repos de quoi ? Parce que ça veut dire que tu étais fatigué
de... Pression.
Ah, de pression.
Non, mais du bébé, pardon.
Non, mais à leur décharge, ils ont une grosse pression médiatique. Ils sortent d'une très, très grosse tournée, notamment en Afrique du Sud. Donc ça, c'est quand même extrêmement fatigant.
Bah,
vu le, il chante pas, mais et qu'effectivement il y a eu quand même la naissance du petit Archie il y a quelques mois, et puis comme Mathieu nous a parlé de la gastro de sa fille, on sait que ça fatigue quoi.
Bah, oui, voilà. Mais sauf que eux, Mathieu, oui. ils ont plus de nounous que vous, je crois. Ils ont des nannies.
D'accord, mais il n'empêche que quand vous avez un bébé qui arrive dans un couple, on sait que c'est fatigant.
Ils veulent s'en occuper quand même.
Bah, bien sûr, c'est plutôt tout à leur honneur. Moi, je les défends.
Vous les défendez, c'est très bien. Votre chronique tête couronnée, mon cher Emmanuel Dutheil, aura-t-elle séduit le roi de la comédie? Patrice Lecomte tranchera peu avant 18h. Certainement. Charrier, nos auditeurs connaissent bien votre avis sur Zaya. On peut savoir ce que vous inspire Meghan Markle.
Pas fine, teint crémeux, juste évasé. Je ne déteste pas les femmes à lunettes sombres, ça leur donne un genre énigmatique qu'il est assez agréable de profaner.
Merci pour elle.
Europe 1.
À suivre, selon une étude de la prestigieuse université d'Oxford, on perd en moyenne désormais 17 minutes chaque soir à se disputer avec son conjoint devant l'écran d'accueil de Netflix. En cause, l'embarras du choix. Heureusement, pour vous guider dans cette jungle, il y a désormais 17 minutes de gagner. Chaque soir, le choix des Varrock sur Netflix, OCS ou MyCanal. Oui, Charrier ?
Le choix des Varrock sur YouPorn, ça marcherait mieux. Hein.
Peut-être, mais c'est pas ce qui est prévu actuellement au conducteur. Donc on peut en parler si vous voulez. Pendant Vidéo Club, ennui sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission qui, en l'espace de 2 mois, a transformé l'open space de la rédaction d'Europe 1 en zone de guerre. Obnubilé par la course au titre de chroniqueur du jour, les journalistes d'Europe 1 se déchirent dans une ambiance électrique. La moindre anicroche peut dégénérer, comme lorsqu'un collègue de bureau a le malheur de reprocher à Mathieu Charrier de faire trop de bruit.
On vous foutra dehors.
Pareil que je fais du bruit. Léo, Fousquet.
Voisin.
Ne nous engueulons pas aujourd'hui car c'est la fête. Les bronzés font du ski en 40 ans. Avec la musique préférée de Patrice Lecomte, il l'écoute tous les soirs avant de se coucher. Patrice Lecomte.
Il va quitter ce studio.
Oui,
de
je vous. Sens. Non, oui, Patrice Lecomte nous expliquait tout à l'heure que c'était pas la musique qu'il avait choisie. C'était pas
non,
votre
priorité. Non, mais à ce moment-là, à cette époque-là, donc il y a 40 ans, j'étais pas très, très, très sur le coup de la musique. Maintenant, j'attache une importance grande à la musique sur les films que je fais. Mais à ce moment-là, je dis pas je m'en foutais, mais je. Enfin, bon. Puis la musique sur les comédies, c'est pas facile à imaginer. Oui. Enfin, bon.
Et surtout, ça reste pas normalement dans l'esprit des gens comme cette musique-là qui est vraiment associée au film.
Mais là, les ayants droit de Pierre Bachelet touchent des sous à chaque fois qu'on la passe.
Mais certainement.
Encore aujourd'hui, 40 ans.
Eh ben, repassez là.
Non, c'était une blague en réalité. Alors, Patrice Lecomte, longtemps pour un réalisateur, le cinéma a été la panacée. Aujourd'hui, de nouveaux formats ont gagné leur lettre de noblesse, comme les séries. C'est pas un format qui vous attire, vous, la série ?
Je travaille sur un projet de série, je ne sais même pas si ça arrivera à se faire, mais juste en deux mots, je trouve que les séries, pour ce que j'en vois, moi je ne suis pas du tout addict aux séries, parce que quand j'entends des jeunes gens, mes enfants par exemple, qui disent on a commencé la saison 6 de tel truc, vendredi soir, on s'est fait livrer des pizzas, on a terminé dimanche à 2h du matin, on était explosés, alors je me dis, ben, ça ne me tente pas.
Eh bien figurez-vous, Patrice Lecomte, que selon une étude de l'université d'Oxford, on perd tous en moyenne désormais 17 minutes chaque soir à bloquer devant l'écran d'accueil de Netflix ou d'autres plateformes de VOD à laquelle on est abonné. On peut parfois passer jusqu'à une demi-heure à chercher.
Si on trouve pas, on peut toujours ouvrir le gaz en regardant les actualités régionales.
On peut, ou alors on peut écouter Eva Rock. Voici 17 minutes de gagner. Eva, qu'est-ce qu'on regarde ce soir?
Eh bien alors figurez-vous que je vous amène pas du tout sur une plateforme ce soir, je vous amène sur l'équipe TV à 21h05. Il vous propose un portrait de Bernard
Tapie.
C'est bien
Tapie, la première fois.
Qui s'appelle, oui, Tapie la franchie. J'avais pas du tout prévu de vous en parler, mais il s'avère que je l'ai regardé ce week-end et j'ai trouvé ce documentaire assez formidable. Comme c'est sur l'équipe TV, vous imaginez bien que c'est très axé sur les rapports entre l'homme d'affaires et le sport. Alors évidemment, Mathieu, il y est question de football et notamment d'un match en particulier.
La finale de la Ligue des Champions 93,
bien sûr,
quand on gagne.
21 avril, quand l'OM remporte la Coupe d'Europe grâce à un but de Basile Boli.
Bravo,
exactement.
Emmanuel. Un point de plus pour Mathieu.
Basile Boli d'ailleurs qui témoigne dans ce documentaire et qui décrit un Bernard Tapie très intrusif, trop présent, parlant très mal aux joueurs, mais en même temps un chef, un meneur, un leader. Voilà. Guy Roux, lui aussi, a côtoyé Bernard Tapie sur la pelouse et écoutez cette anecdote.
Les bancs de Marseille étaient enterrés. Et moi, en général, je mettais une chaise à côté du souterrain, là, pour être à la hauteur. Il m'avait piqué la chaise à la mi-temps pour que je puisse plus m'asseoir là. Donc, je n'étais pas dans la fosse, j'étais accroupi ou à quatre pattes sur le gazon et j'encourageais mes gars qui, bien sûr, étaient, je crois qu'il y avait 0-0 et il était dans l'autre fosse, lui, et il me criait « Gros con, rentre dans la niche !» Bon, ça m'a amusé, j'ai pas pris ça pour une insulte, c'était pendant le combat.
Oui, hein. C'est vrai, hein, parce que ce con, finalement...
Gros con, moi je dis gros con tout le temps, voilà. par pure affection.
Bien sûr, il faut pas prendre mal. Cela dit, je me permets de rappeler qu'avec Bernard Tapie, on n'aurait pas perdu 4-0 hier soir contre le PSG.
Ah, je vous laisse le dire.
Ah,
hein.
Oui, oui, ben
vous avez vu que je ne vous ai pas provoqué là-dessus. Hein. Bon, alors vous le verrez, pas de scoop dans le documentaire, mais des témoignages inédits. Alors comme celui du journaliste Dominique Grimaud qui a eu dû faire face à la colère de Tapie pour une phrase dans un article, ou encore... Alors là, c'est le récit incroyable de Greg LeMond, coureur de l'équipe de cyclisme La Vie Claire, qui avait été créée par Bernard Tapie. Tour de France 1986, il franchit la ligne d'arrivée à l'Alpe d'Huez, main dans la main avec Bernard Hinault. Je ne sais pas si vous vous souvenez
de cette image très forte.
Les deux hommes qui appartiennent à la même équipe ne sont pas les meilleurs amis. Et cette photo, elle a été mise en scène et exigée par Tapie, qui connaissait la puissance d'une photo en termes de communication. Et Greg LeMond raconte ce moment-là. Et Bernard Hinault aussi.
Parce que, enfin, je crois, je ne sais pas s'il laissait raconter un reportage, mais qu'il y en a un des deux qui arrive premier. Et ils définissent qui va arriver premier. Il y a une roue qui va passer d'abord.
C'est Bernard Hinault qui est donné gagnant pour ça, parce que Greg LeMond avait de toute façon gagné.
Donc il a commencé bien avant Valenciennes OM.
Et bien justement,
Daniel Dutheil sortait de ce studio.
Transition toute trouvée, parce qu'il y a effectivement aussi le témoignage de Jean-Pierre Bernès, ancien dirigeant de l'OM, condamné dans l'affaire du match OM-Valenciennes. Après des années de brouille, figurez-vous que les deux hommes se sont revus, c'était cet été, et les journalistes de l'équipe ont recueilli le témoignage de Jean-Pierre Bernès le lendemain de ces retrouvailles.
C'est un moment qui restera jamais dans ma mémoire. Et quand je suis parti, je lui ai envoyé un message pour le remercier de l'accueil qu'il m'avait réservé. Que j'espère qu'on refera des rencontres comme ça. Et je lui ai surtout dit qu'avec mon père, c'était l'homme qui avait le plus compté dans ma vie.
Témoignage très fort de Jean-Pierre Bernès. Et après la diffusion de ce documentaire qui est très bien fait, vous pourrez aussi découvrir un entretien mené avec Tapie, qui évoque notamment son enterrement, mais avec un grand sourire, où il dit un enterrement où beaucoup pleureront. Vous verrez, beaucoup pleureront. Bon, les journalistes, non, mais on s'en fout. Il y en a d'autres qui seront là pour pleurer ma mémoire. Voilà. C'est à voir sur l'équipe à 21h05.
17 minutes de gagner, les amis. Merci qui ? Merci Eva Rock.
Europe 1.
À suivre, justement, on reste devant nos écrans avec le dernier sujet en compétition aujourd'hui. Mathieu Charrier va nous expliquer comment nous servir de Netflix comme un pro, déjouer l'algorithme qui vous propose des choix selon vos goûts, écouter Netflix comme la radio ou encore configurer plusieurs profils différemment. Par exemple, chez les Charrier, ils sont 6.
Un homme bien en chair, un homme très étrange, limite pervers, un nain aussi, qui prend plaisir à manger du jambon blanc toute la journée.
C'est toute une famille un peu complexe. À tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue sous l'œil souverain de Patrice Lecomte, puisqu'on fête les 40 ans des bronzés fonds du ski. La semaine prochaine, sortie d'un coffret. Mais c'est ça. Alors on s'arrête. Non, mais... C'est ça qui est juste incroyable dans les bronzés. C'est qu'à chaque fois, ça marche. On l'a entendu 10 000 fois, chacun d'entre nous. Mais à chaque fois, si on tombe dessus à la télé, on va quand même le regarder. Qu'est-ce qui explique la magie de ce film ?
Ben, je ne sais pas trop. Le fait que ça passe à la télévision alors que les gens, en gros, ont le DVD chez eux.
Ben oui, bien sûr.
Mais ça ne leur viendrait pas, et je comprends, ça ne leur viendrait pas à l'idée de prendre le DVD et de dire « Tiens, je regarderai bien ce soir, les bronzés font du ski ». En revanche, si ça passe à la télévision, ça veut dire qu'il y a plusieurs millions de gens qui, au même moment, se marrent des mêmes choses. Et donc, il y a une espèce de communion virtuelle, pour employer un mot un peu crétin, mais qui fait que, comme ça, demain, on pourra en parler autour de la machine à café.
On parlait tout à l'heure du fait que l'équipe du Splendid avait pratiqué eux-mêmes pas mal le Club Med et qu'ils connaissaient bien ce qui se passait dans les Club Med en vrai avant d'écrire la pièce de théâtre qui a précédé le film Les Bronzés. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si Michel Blanc vous a confirmé cette confidence, mais il a raconté une fois dans une interview, alors je ne sais pas si c'était du second degré ou pas, hein, il a raconté une scène surréaliste, que la scène surréaliste jouée dans le film par Thierry Lhermitte, qui est géo au club, qui pèse les filles avec qui il couche, dont on a écouté l'extrait tout à l'heure, est une scène qu'il aurait vue dans la réalité. Est-ce que vous avez la vraie version de cette
blague ? Oui, mais ils m'ont confirmé qu'il y a ils faisaient ça. Pas eux, mais non, sûr, ils ont vu faire ça.
Ils ont vu faire ça. Vous imaginez ? Je vois que Charrier a des étoiles dans les yeux.
Cela dit, le film a été fait en 78. Ouais. On ne pourrait pas faire ça aujourd'hui.
Ah non, c'est clair que cette scène-là, par exemple, ça serait...
Cette scène, on ne la fait pas. Il y a plein de vannes, de trucs et de machins. Donc, il était temps qu'on les fasse.
Il était temps. À présent, mon cher Patrice Lecomte, je vous présente le journaliste inusable de la rédaction. Il court du plateau de la matinale de Mathieu Bellière au studio de Philippe Vandel, avale un sandwich, déboule chez nous. Il n'arrête jamais. Fatalement, ça se ressent parfois dans la qualité de ses sujets, que certaines mauvaises langues, comme Emmanuel Dutheil, trouvent souvent un peu trop facile ou racoleur.
voudrais essayer quelque chose de plus choc, je sais pas moi, genre déçu par sa femme, il encule son chien, ou l'inverse.
Je vous en prie. Laissez s'exprimer l'inusable Mathieu Charrier. Vous nous parlez de Netflix ou comment bien utiliser Netflix?
Oui, si parce que comme moi, vous êtes sans doute déjà énervé devant Netflix, vous savez, parce que l'épisode suivant démarrait alors que vous n'avez rien demandé, oui. Parce que vous trouviez que les sous-titres, on ne voyait rien, avec les... parce oui. que c'était du blanc sur du noir ou du noir sur du blanc, parce que Netflix vous proposait avec ce fameux algorithme, ah ben bravo l'algorithme, vous proposez des films ou des séries
des daubes,
dont alors vous n'avez absolument rien à faire. En fait, tout est de votre faute.
Comment ça, tout est de ma faute? Pas du tout.
Si, si, alors on commence avec cet algorithme. Déjà, la première chose, Mathieu, créez-vous un compte personnel. Pourquoi je dis ça? Un profil bien à vous. Vous savez, quand vous arrivez sur la page d'accueil de Netflix, vous cliquez sur vos profils. Vous avez un gros plus à droite si vous voulez en créer un personnel. On va sur plus parce que ce qui se passe souvent, c'est que vous allez créer un profil, par exemple, pour votre couple. Bon, si vous n'êtes pas là, votre femme, elle peut regarder une série qui ne correspond pas à vos goûts à vous. Sauf que Netflix, il pense que c'est vous qui regardez cette série.
C'est pour ça qu'il y a tant de daubes. Ben voilà, qu'est-ce qu'elle regarde, ta compagne?
C'est moche, ça.
C'est de la faute de madame. Ou alors, quand vous allez chez des amis, vous, pareil, vous connectez votre profil, vous regardez tout, un truc tous ensemble, mais ça ne correspond pas forcément à vos goûts. Donc la première chose, c'est de se créer un profil personnel, un profil par personne. Ensuite, sachez que vous pouvez modifier l'ordre d'apparition des films et des séries, justement, dans le petit onglet « Ma liste », vous savez.
Et comment?
Ça, c'est très simple. Vous allez dans « Profil »,« Ordre de priorité ». Et du coup, c'est vous qui organisez votre ordre de priorité. Et quand une nouvelle saison arrive d'une série que vous aimez ou un nouveau film, etc., ça apparaît directement et ce n'est pas noyé justement par l'algorithme de Netflix. Enfin, petit conseil qui n'a l'air de rien, mais quand vous ouvrez votre compte chez un ami, vous savez, ou chez votre grand-mère ou chez votre cousin, peu importe, souvent vous oubliez de vous déconnecter. Mmh. Et donc ensuite, cet ami, même s'il est très honnête,
oui, il va pouvoir
il
regarder.
Se reconnaît sur Netflix, il voit que le truc fonctionne, bon, bah, il regarde des films. Là aussi, il faut se méfier parce que du coup, le goût de votre ami est pris en compte dans l'algorithme. Et alors là, je vous conseille une petite fonction très pratique. Une fois par an, on va dire, dans paramètres, vous allez, il y a quelque chose qui s'appelle déconnecter tous les appareils. Vous déconnectez et ça déconnecte tous les appareils qui sont connectés avec votre compte à vous. Ensuite, vous reconnectez
ça, c'est très intéressant.
Sur votre
ordinateur. Je suis sûr que j'ai laissé Netflix ouvert dans plein d'endroits.
Voilà, vous reconnectez sur votre ordinateur, sur votre télé, à vous, personnel, et vous êtes tranquille.
Et les sous-titres, Mathieu, on peut les modifier, ces
on
sous-titres?
On peut tout faire. Là aussi, vous allez dans mon profil, affichage des sous-titres, et vous pouvez choisir la police, la taille, et même si vous souhaitez, vous pouvez mettre un fond de couleur. Parce qu'effectivement, parfois, selon les films ou selon la qualité de l'image, ou si vous regardez quelque chose en noir et blanc, évidemment, le blanc ressort moins bien. Donc vous pouvez mettre derrière un fond de la couleur que vous voulez et vous y verrez évidemment beaucoup plus clair. Sachez aussi que sur Netflix, il y a un historique, comme sur un navigateur web. Ça, personne ne le sait. Mais quand vous laissez votre ordinateur ouvert au bureau, Mathieu, qu'on va voir avec Eva, on voit que la dernière série que vous avez regardée, c'est Planqueur. Là encore, n'oubliez pas, vous allez dans mon profil historique et vous pouvez faire tout masquer et c'est bon, c'est réglé.
Comme après, navigation privée sur Google.
Exactement. Et là, c'est bon. Netflix ne retiendra plus aucun des films que vous allez regarder. Vous êtes définitivement tranquille.
Jeudi dernier, notre invité Johan Sfar nous disait que lui, il écoutait les séries, il ne les regardait pas parce qu'il dessinait en même temps. Vous avez une fonction pour ça?
Oui, il y a une fonction tout en bas de la page d'accueil de Netflix. Vous avez un lien tout simplement audio-description. Vous savez, il y a quelques films qui sont en audio-description dans les salles. Et bien Netflix fait beaucoup de films ou beaucoup de séries, les adapte en audio-description. Donc là, il suffit de cliquer sur cette petite option. Et effectivement, vous pouvez écouter la série sur votre vélo avec vos écouteurs, dans le train. Vous
comme
savez,
des podcasts.
Comme
radio,
des podcasts,
quoi.
Exactement. C'est assez génial. Comme les livres audio.
Et il y a la même fonction pour Europe? Et il y a des gens qui regardent que l'image c'est et qui n'écoutent pas le son.
C'est intéressant.
C'est pas forcément moins intéressant. Ça dépend les
émissions. Enfin, deux derniers conseils. Vous savez, il y a aussi un truc sur Netflix moi qui m'énerve, c'est à la fin, l'épisode suivant, il s'enchaîne automatiquement. Alors vous êtes sous la couette en train de regarder votre truc, vous avez la flemme de vous lever pour aller déconnecter ou pour aller mettre stop. Donc, vous vous faites avoir, la série recommence et vous continuez. Là aussi, c'est très simple. Mon profil, paramètres de lecture, et vous désactivez, lancez automatiquement le prochain épisode. Enfin, il y a un truc que j'ai découvert. Est-ce que vous savez que vous pouvez réclamer un film ou une série
réclamer,
à Netflix?
C'est-à-dire
s'ils n'ont pas dans leur catalogue, vous allez sur la page d'aide, il y a un petit formulaire. Demandez des films ou des séries télé.
Je suis sûr qu'ils n'ont pas... Les WC étaient fermés de l'intérieur.
Eh bien, vous remplissez, vous mettez...
Je vais le faire dès ce soir.
Et s'il y a un certain nombre
de
personnes...
Et s'il n'y a pas les Grands-Ducs, même, je les attaque en justice.
Voilà,
mais je vais plus loin.
Il y a les Bronzés?
Non, il n'y a pas les Bronzés.
Non.
Et c'est vous qui refusez ou c'est eux qui veulent pas?
Non, moi je refuse rien. Plus ils sont diffusés, plus je suis content.
C'est souvent le distributeur qui garde les droits. Et s'il y a effectivement un certain nombre de personnes qui réclament un film ou une série, bien Netflix va tenter d'acheter la licence et de le diffuser.
Eh ben Mathieu, on va réclamer les Grands-Ducs. On sera deux.
Oh oui, on réclame tous les deux. On sera trois.
Alors, sans mouvement général.
Magnifique.
Vous vous rendez compte, là, c'est pas 17 minutes qu'on va perdre à faire tout ça avant de regarder une série. Il faut
faire une fois pour la bonne cause. Là, ça sera pour la bonne cause.
Il faut le faire une fois, vous êtes tranquille.
Non, c'était très bien, Mathieu. Et je ne dis pas, c'est parce que c'est moi qui vous ai suggéré ce thème de chronique. Ça m'a personnellement beaucoup intéressé. Et faites avec nous la sortie d'un coffret collector pour les 40 ans des Bronzés fondus. Qui Patrice Lecomte passe l'après-midi sur Europe 1. Europe 1. À suivre, c'est une des scènes les plus cultes du film, ce moment où dans la maison des montagnards, Chazelle, Blanc et Junio voient arriver la fougne. Un plat particulier, tout en finesse, qu'on n'aurait peut-être jamais connu si Bruno Moineau ne s'était pas estamé.
Moi j'ai tellement faim, je boufferais n'importe quoi.
Et il ne croyait pas si bien dire. Et le pire, c'est que la fougne existe vraiment. Reste de fromage, ail et vin blanc, ça s'appelle la pétafine. Et aujourd'hui dans Delice in Extremis, d'ailleurs vous auriez pu garder le vrai nom parce que pétafine, ça sonnait mal.
Je savais pas que ça existe.
Alors vous allez voir, notre chroniqueur gastronomique Olivier Pouls a retrouvé la recette, il vous explique dans quelques instants.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue et je ne vous cache pas, chers auditeurs, que dans l'équipe, certains sont un peu crevés. Le week-end a laissé des traces, surtout chez Eva Rock, dont les cernes trahissent un samedi soir mouvementé, oui. Deux Italiens rencontrés au Balto en bas de chez elle. Enfin, c'est surtout ses voisins qui ont passé une sale nuit.
C'est pas possible, ils vont pas faire ça toute la nuit, on voudrait bien dormir. Ça va bien,
vous l'avez compris, puisqu'Eva Rock n'a rencontré aucun Italien, sinon j'aurais fait une story Instagram, c'est que nous fêtons aujourd'hui les 40 ans des Bronzés Fonds du Ski avec son réalisateur Patrice Lecomte. Alors évidemment, aujourd'hui on manque pas de questions, on vient d'entendre l'extrait de la scène du refuge. Cette scène-là, par rapport à la pièce, moi j'ai pas vu la pièce, j'ai même pas vu la captation.
Mais
la pièce.
Les Bronzés Fonds du Ski, c'est pas une pièce.
Oui, les Bronzés Fonds du Ski, c'est pas une pièce, je dis vraiment n'importe quoi dans cette émission.
C'était les Bronzés tout court qui étaient une pièce.
Alors,
de théâtre.
Comment est née cette scène du refuge? Est-ce que c'est aussi de l'observation? Est-ce que c'est déjà quelque chose qu'ils avaient vécu, l'équipe du Splendide, ou ça c'est
non, c'est les scènes dans autant les Bronzés Aisés, c'est inspiré par le club Méditerranée, par les clubs de vacances en général et le club Med en particulier, autant les Bronzés Fonds du Ski, c'est juste des délires d'imagination, de trucs, enfin, parce qu'on s'est dit que si on déboulait dans un chalet de haute montagne, un refuge de montagne, et qu'on y rencontre des Italiens qui sont comme les Italiens, pléonasmes, assez chauds et assez chaudes, ça pouvait être poilant, quoi.
Patrice Lecomte, est-ce que votre métier de réalisateur est plus difficile qu'avant? J'ai lu dans une interview quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Vous avez dit, je pense que certains films que j'ai réalisés comme Tandem ou Le mari de la coiffeuse ne seraient plus possibles aujourd'hui. Pourquoi?
Oui, mais parce que, encore une fois, ne tombons pas dans le c'était mieux avant, mais c'est vrai que les films étaient plus faciles avec tous les guillemets du monde à faire il y a quelques temps, et que là, les producteurs, distributeurs, les chaînes de télévision, surtout, sont devenus de plus en plus frileux et frileuses, et que c'est difficile de faire des films qui n'entrent pas dans le moule. C'est-à-dire que j'aime l'idée qu'on fabrique des espèces de prototypes, de soucoupes volantes. C'est vrai que le mari la coiffeuse, ou Tandem, ou La fille sur le pont, c'est des films étranges, personnels, uniques. Et faire ces films-là aujourd'hui, ce serait devenu très difficile.
Pour vous, c'est difficile de dire c'était mieux avant, parce que vous ne voulez pas avoir ce côté
vieux schnock.
Mais enfin, moi, je suis quand même encore relativement assez jeune, mais moi, je trouve que c'était mieux avant. C'est dommage que des films, justement, assez singuliers ne puissent plus se produire aujourd'hui, parce qu'il y a ces chaînes de télé qui disent « Ah non, là, il nous faut un personnage comme ci, comme ça, pour parler à la ménagère. »
C'est effectivement de plus en plus difficile, mais pour en venir et en finir avec le « c'était mieux avant », puisque c'est toujours mieux avant, il faut profiter de maintenant, parce que plus tard, ça va être pire.
Ça va être encore pire. Quand on voit qu'aujourd'hui, les jeunes démarrent souvent avant de faire du cinéma, ils se font connaître sur YouTube en faisant des vidéos autoproduites, tout ça. C'est quelque chose que vous suivez d'un œil, ou c'est un autre monde pour vous? Est-ce que si vous aviez démarré aujourd'hui, si vous avez eu 20 ans en 2019, est-ce que vous aussi, vous vous seriez filmé, vous auriez concocté des vidéos sur YouTube?
Je suis pas sûr, mais il faut jurer de rien. C'est vrai que si j'avais 20 ans aujourd'hui, sans doute, je ferais ça. Tous les moyens sont bons pour arriver à exprimer ce qu'on a en tête. Évidemment, il faut servir de tout ce qui est possible. Et il y a de plus en plus de choses possibles et envisageables aujourd'hui, donc c'est extra.
Parmi vos projets, on parlait d'une adaptation de Maigret avec Gérard Depardieu. Est-ce que c'est la première fois que vous collaborez avec Gérard Depardieu?
Oui, on s'est tourné autour. Bah, c'est mon expression.
Ça fait pas mal d'années alors que vous tournez autour.
Eh bah oui, maintenant, c'est plus long d'en faire le tour.
Plus le temps passe, plus c'est
compliqué. Non, mais j'adore cet acteur. C'est vraiment un acteur absolument formidable. Et je rêvais confusément un jour ou l'autre de faire un film avec lui. Il y a eu des choses qui auraient pu se faire, et lui, il m'aime bien. Et quand on se retrouve pour être Maigret, ça va s'appeler Maigret la jeune morte, qui est un très beau roman de Simenon, il était emballé.
Alors pardonnez-moi cette question, mais je me suis toujours posé la question avec Gérard Depardieu. On a l'impression qu'il y a des acteurs qui sont plus ou moins bons dans les films en fonction du réalisateur. On voit l'impact que le réalisateur a eu dans sa direction. On a l'impression que Gérard Depardieu fait partie des
rares acteurs qui est toujours excellent dans à peu près n'importe quoi. Et quel va être votre... C'est compliqué de diriger Gérard Depardieu, j'imagine que lui tout seul, c'est un tel monument.
C'est-à-dire que c'est déjà compliqué ou en tout cas illusoire de diriger un bon acteur. Les réalisateurs et les metteurs en scène qui se prétendent directeurs d'acteurs sont des imposteurs parce qu'un acteur n'est pas une marionnette, c'est pas un bout de pâte à modeler à qui on va dire fais ceci, fais cela, gratte-toi le nez, non c'est mieux. Enfin, bien sûr que non. Donc les acteurs sont des personnes intelligentes, sensibles et si un scénario est bien écrit, l'essentiel de la direction d'acteur, c'est le choix de l'acteur. Alors évidemment, après, on discute et tout ça, mais moi, je ne suis pas le genre à prendre le chou des acteurs en leur disant, alors, le personnage a une enfance difficile, il a été mis dans un placard 6 mois, donc aujourd'hui, il est un petit peu aigri, tu comprends, Coco. Donc, je ne fais pas ça, parce que je préfère l'immédiateté, l'inspiration, l'intuition du rôle et du personnage. C'est tellement, tellement plus riche, quoi.
Vous racontiez que vous êtes tourné autour avec Gérard Depardieu. J'imagine qu'il y a plein de projets que vous avez eu en tête et que vous avez abandonnés ou qui n'ont jamais été, pu se réaliser.
Le fameux ratio, c'est... Ouais.
C'est quoi le ratio de Patrice Lecomte?
C'est 1 sur 2. C'est-à-dire que j'ai fait 30 films, ce qui n'est pas dément non plus. J'ai fait 30 films, mais il y en a 30 que je n'ai pas fait, que je n'ai pas pu faire.
Et parmi ces 30-là, il y en a vraiment un que vous aimeriez sauver et monter aujourd'hui?
Oui, enfin, il y a des films sur lesquels j'ai aimé travailler, que j'ai aimé écrire. C'est évidemment un peu frustrant, carrément rageant. Enfin, ça m'a fait chier de ne pas les faire, quoi. Mais je n'ai pas envie de les réactiver. C'est-à-dire que s'ils ne se font pas, c'est peut-être qu'ils ne devaient pas se faire et passons à la suite.
Mais ils étaient à une étape d'étude ou vous avez un scénario dialogué pour ces films-là?
C'était pas juste un projet
Ils sont dans vos tiroirs, c'est des scénarios.
Ah non, c'est écrit, repéré, casting, bien souvent, producteur. Et puis le château de cartes se casse la gueule.
D'ailleurs, tout le monde ne sait pas que vous avez commencé comme dessinateur aussi de bande dessinée. Vous avez notamment collaboré à Pilote. Est-ce que les débuts de vos scénarios sont des storyboards?
Non,
façon
jamais,
de
non,
dessiner,
non,
jamais.
Non, je déteste l'idée du storyboard. J'ai jamais fait de storyboard parce qu'en plus, sur mes films, je suis moi-même, enfin, je cadre mes films, je tiens la caméra, comme on dit. Et donc, je vais pas dessiner les images que j'ai en tête pour après les refaire. Oui. Enfin, ce serait absurde. Mais j'aime pas cette idée.
Mais c'était une bonne question quand même, Eva. Un incontournable cadeau de Noël la semaine prochaine sort un coffret collector Les Bronzés font du ski 40e anniversaire avec une version restaurée inédite, c'est mieux. Et des tonnes de bonus. Patrice Lecomte est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, comme moi, vous avez ce rituel bien-être immuable. Au moins 2 fois par an, vous vous réunissez avec vos proches pour revoir Les Bronzés. D'abord Les Bronzés 1.
Il a un malaise, le peignoir.
Et puis Les Bronzés font du ski, toujours.
Bernard, par exemple, quel est le défaut principal de Bernard?
Il est égoïste.
Et comme moi, je suis sûr que devant Les Bronzés, vous bouffez bêtement des chipsters belins. Ce qui est idiot. Pour vivre l'expérience pleinement, il conviendrait en effet de manger la fougne, ce plat fromager servi à l'étalé. Or, ce plat existe. On vous donne la recette juste après. Les gens, Christophe Maé sur Europe.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez toujours l'équipe est sauvage. 2 heures pour détendre vos zygomatiques, remplir vos cervelles et flatter vos papilles. Et cet après-midi, je lève le voile sur les coulisses de cette émission. Normalement, Olivier Pouls, notre expert gastronomique, devait être enregistré aujourd'hui. Et quand il a appris qu'on recevait Patrice Lecomte pour fêter les 40 ans des Bronzés font du ski, il a décrété qu'il ne pouvait pas ne pas être là. Il est donc en ligne depuis Bordeaux avec nous, car il tenait à nous livrer la recette de la fougne. Et la fougne, c'est d'abord du pain.
Bah, félicitations, elles sont bien rondes vos miches. C'est une recette du pays. Hein? Ça s'appelle la fougne.
La fougne.
Et c'est quoi qu'il y a dedans là?
Ah ben ça, c'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. Alors on fait macérer ça avec du gras et puis l'alcool de bois pendant 2-3 saisons.
Manger petit, tu vas venir un vrai montagnard.
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour toute l'équipe, bonjour les amis. Alors c'est vrai que je n'ai pas pu résister à vous préparer une bonne fougne, ou plutôt une bonne pétafine, parce que le nom exact de cette recette qui est authentique, qui existe, qui est originaire du Dauphiné, c'est la pétafine.
C'est génial comme nom, la pétafine. Alors, c'est fait comment? Il n'y a pas d'asticot dedans dans cette version, rassurez-nous quand même.
Non, alors la recette telle qu'elle est donnée dans Les Bronzés est très proche en fait de la recette originale. C'est effectivement des restes de fromage. Alors on y va, on vide le frigo, tout le plateau de fromage du week-end, tout ce qu'on n'a pas mangé peut y passer. Des fromages de chèvre, des fromages de vache, des fromages de brebis. On peut même rajouter des fromages à pâte molle, des fromages à pâte dure. Alors l'astuce pour les fromages à pâte dure, c'est de les faire ramollir dans du lait. Mmh. On malaxe tout ça. C'est-à-dire qu'on pétafine le tout. On
fait une espèce c'est un verbe, pétafiner.
Oh, oui, c'est un verbe, pétafiner.
Il y a Patrice Lecomte
qui a un malaise.
Le peignoir.
Et ensuite, on rajoute effectivement, alors pas de l'alcool de bois parce que ça rend aveugle, mais on rajoute un peu d'eau de vie ou éventuellement un peu de vin blanc, de l'ail haché. Alors le gras, on peut rajouter un peu d'huile. Certains rajoutent des herbes. Et puis, il y a deux options. La première consiste à le manger tout de suite, c'est-à-dire manger une pétafine fraîche. Et l'autre option, c'est un peu comme dans les bronzés, c'est de la faire maturer en quelque sorte, donc de la garder, alors pas plusieurs saisons, il ne faut pas exagérer, mais la garder quelques jours ou quelques semaines. Et si vous voulez, les amis, je me fais fort de vous préparer une pétafine et d'ici deux, trois semaines, je viens vous la faire goûter à l'étalé.
Et c'est Eva Rock qui goûtera en premier. Et la pétafine, c'est quelle région, vous avez dit, Olivier ?
Alors, c'est une recette du Dauphiné qui a servi de base, évidemment, au moment de l'écriture du scénario. Patrice Lecomte peut peut-être nous le confirmer.
Patrice Lecomte, comment vous avez dit cette recette ?
Sincèrement, je crois que c'est une inventée de toutes pièces. Ouais.
Et pourquoi pas ? Ça pourrait être inventé de toutes pièces et finalement, ça se recoupe. Fromage, ail, ça ressemble un peu à la croûte au fromage qu'on mange chez moi en Suisse. Hein. Croûte au fromage, pain, vin blanc et fromage dessus.
C'est la version light. Quand
c'est pas un mélange de 15 fromages.
Mais pourquoi pas, c'est très bon un mélange de 15 fromages. Une pizza 4 fromages, c'est bon, pourquoi pas un mélange de 15 fromages. Moi ça ne me choque pas, je vais vous dire, moi je serais heureux de goûter la pétafine, Olivier.
Eh bien, je vous prépare une pétafine et si Patrice Lecomte veut la goûter authentique, je l'invite aussi, d'ici une quinzaine de jours on la goûte, c'est promis.
Merci Olivier Pouls, qu'on se trouve chaque samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Nous y sommes presque, notre spécial Bronzé fondu ski touche à sa fin. On saura dans quelques secondes qui a été élu chroniqueur du jour. Et pour les 40 ans de ce film culte, il était temps de rendre hommage à l'autre star du film, Patrice, la musique. Et là aussi, si on prend la peine de traduire « Just because of you » en français, on découvre des paroles assez mythiques.
Juste à cause de toi, je te supplie, tu sais que c'est pour toi. Je ressens pour toi, bonjour mon amour. Je dis toujours tu viens.
Bachelet, l'autre Brassens. À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage et notre spécial Bronzé fondu ski touche à sa fin. Pour les 4 journalistes d'Europe 1 en compétition aujourd'hui, c'est maintenant que tout se joue. Et comme à l'heure du Dijon, ça passe ou ça casse. Tenez.
C'est de la liqueur d'échalote. Mais c'est relevé au jus d'ail. Parce que l'échalote tout seul, ça serait trop fade.
Et bonne chance à tous. Ensemble, on célébrait les 40 ans de la comédie française culte. Si culte que même Gilbert Montagnier a repris Just Because of You. Vous entendez ça ? Pas le mieux qu'il ait fait. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Eh bien, c'était très serré, mais c'est Mathieu Charrier qui l'emporte avec Netflix.
Merci Mathieu Charrier qui marque donc 2 points. Pour ma part, j'offre mes points à Anicem Bida.
Oui. Déjà tellement, ça sert à rien.
Non, alors c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de points. Effectivement, il est presque en tête du championnat. Vous êtes deuxième du championnat, Nice.
Mais c'est Eve Roger du monde.
Qu'on salue, qui est toujours leader avec 34 points. Mais vous le savez, ici, le dernier mot revient à notre invité d'honneur. Attention, Patrice Lecomte, votre voix compte triple. Qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour?
Ben, les quatre, bien sûr, mais avec une préférence, pour la chronique de Mathieu Charrier, parce que. Et c'est mon dernier mot, parce qu'il a réussi à m'intéresser à un truc qui ne me concerne pas.
Ah, Netflix, c'est vrai que vous regardez pas, vous n'êtes pas client de Netflix.
Du tout. Et j'ai écouté ce qu'il racontait, je trouvais ça captivant, alors qu'à la limite, j'aurais pu m'en foutre. Donc j'ai trouvé ça malaise.
À la limite, j'aurais pu m'en foutre. C'est un des plus beaux compliments qu'on ait fait, Mathieu Charrier, qui remporte la victoire. Merci. Avec l'idée de sujet que je lui avais soufflé, je viens de préciser.
Et pour lequel vous n'avez pas voté, j'allais
vous
dire.
Parce que vous aviez suffisamment de points.
Ouais, c'est Magouille et compagnie.
Je ne vous laisserai pas dire que cette émission
a un avantage sur les autres, c'est que lui, au moins, il couche.
Ça, c'est pas faux. Mesdames et messieurs, c'est Mathieu Charrier qui emporte cette 46e journée de l'équipe sauvage. Venez que je vous couronne, mon cher. On remercie encore Patrice Lecomte, à qui j'ai envie de dire.
Viens, mon amour, continuons. Je sais que tu sais, je te laisserai.
Quand même vous laisser partir, mais à regret, le 6 novembre, sortie de ce coffret collector Les Bronzés fonds du ski, version remasterisée avec des tonnes de bonus. Merci Patrice Lecomte d'avoir joué le jeu durant ces 2 heures.
Merci à vous, Mathieu.
Merci également à mes journalistes, Eva Rock, Mathieu Charrier, Anicem Bida, Nicolas Caro, Emmanuel Duteil. L'équipe est sauvage revient demain, 16h.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.